Salut à tous, vous écoutez l'épisode 13 de Y a plus de papier, un podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture et le scénario, ça a changé.
Oh.
Et oui, vous voyez, on en profite pour se souhaiter un joyeux anniversaire parce que ça fait déjà un an qu'on a créé ce podcast.
Et voilà, joyeux anniversaire.
Non, on peut pas, ça c'est...
Et bah, le gâteau il est où Mathieu? Je croyais que tu l'avais, tu devais pas le récupérer à la boulangerie, non?
On s'est foiré, bah, il nous attend, c'est pour plus tard.
Ah, c'est pour après.
Ouais, bah oui. Je me suis dit, sur les micros et tout, ce sera dégueulasse. On va en foutre partout. Bon, bah, ça fait 13 épisodes, ça fait un an qu'on a créé ce podcast et on est content.
Ouais, on est super content.
Pour l'instant, ça se passe bien. On a eu des super sujets, des super invités. Du meilleur matos aussi, c'est pas négligeable.
Bah, on va peut-être en parler. Déjà, il y a plus de papier avant. Avant, il y a plus de papier, Mathieu, il y avait un autre podcast qui s'appelait.
Qui n'existe pas,
mais qui a été fait pour nous. Et un jour, on s'est dit, bah, ça serait bien de faire quelque chose de plus pro.
Ouais.
Du coup, on a eu l'idée de il y a plus de papier. Donc oui, bien sûr, meilleures conditions d'enregistrement, ça c'est clair. On a toujours du bon matos et surtout, on prend le temps de de soigner le son. Voilà, on passe du temps à mixer, monter et mixer le podcast pour le confort de vos oreilles, pour que vous puissiez écouter ce podcast dans le métro par exemple.
Un meilleur confort, donc aussi plus de professionnalisation de notre côté.
Voilà.
Mais bon, ça c'est de la technique, on s'en fout finalement.
Voilà, ce qui compte, c'est qu'il y a de plus en plus d'auditeurs.
Oui,
Mathieu.
Ça c'est bien, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et c'est très cool, on vous remercie. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de gens qui seraient intéressés par deux cons comme nous à dire des conneries.
Et des trucs à peu près sérieux.
Mais heureusement, je pense que c'est parce qu'on a des super invités et pas nous. Hein,
heureusement que nous on ne parle pas d'ailleurs, on
voilà.
Fait juste poser des questions, ça
d'ailleurs,
suffit déjà.
On va arrêter de parler.
Ouais,
le prochain épisode, on sera plus là. On laisse que les invités. Non, mais les invités, ils étaient toujours sympas, toujours intéressants. Des nouvelles voix régulièrement,
ouais.
Et il y en aura d'autres.
Bien sûr.
Dans l'année à venir. Et ça a amené aussi des sujets. Et c'était vivant. On pensait avoir un modèle assez figé au début quand on a commencé le podcast. Et finalement, on a constaté qu'il fallait que ça évolue, que ce soit un peu plus organique. Et c'est très chouette comme ça. Et du coup, les sujets abordés ont évolué. Mais c'est toujours des trucs super intéressants qui nous passionnent. J'espère que vous l'entendez.
En tout cas, vous nous le dites hein, dans les commentaires, donc ça c'est très chouette. Et parce qu'on sent que ça fonctionne, que vous écoutez et que vous aimez bien ces podcasts, on a décidé donc de continuer avec des hors-séries.
Ça fait un moment qu'on parle de hors-séries. Mais
oui, ça fait un moment qu'on en parle, mais c'est pas simple. Ça demande du temps, voilà, ça demande un peu de préparation.
Et puis pour la suite aussi, les prochains sujets, si vous avez des sujets que vous voulez absolument entendre, n'hésitez pas à nous le dire. Laissez-nous un petit tweet, un mail, podcast@adrienetmathieu.fr. On prendra note, on nous a suggéré des choses qui arrivent d'ailleurs.
Ah ouais.
On en parlera peut-être prochainement. Et du hors-série, on espère pouvoir développer ça. Mais il faut du temps, et du temps, on n'en a pas, plus que les autres en fait. Et ben voilà, ça fait un an et c'est cool.
Alors ce mois-ci, on va discuter de dramaturgie en général et de la dramaturgie, le livre, avec son auteur qui est avec nous, Yves Lavandier. Mais avant d'aborder notre sujet, on vous rappelle que si vous voulez
nous soutenir,
il y a plusieurs moyens de le faire, notamment en laissant une note et un avis sur iTunes. Ça nous aide vraiment beaucoup et ça nous permet aussi de remonter dans les classements.
Ça donne la visibilité et puis vous pouvez aussi partager le podcast s'il vous a plu. Et c'est tout.
Et c'est tout. Ben voilà, c'est déjà pas mal. Donc parmi les gens qui nous ont laissé un petit message, on remercie tout particulièrement. Alors on va essayer de lire à peu près correctement vos pseudonymes. C'est pas toujours très simple.
Sur iTunes, on a eu des commentaires très sympas de
Alice03,
de Elfkins,
Lucille T,
de Chez,
Robin D,
de Vincent Tou
et de Squirrel FR. Merci à vous.
Ouais, merci à tous. En plus, les commentaires sont super. On vous laisse les lire. On va pas. On
oui,
va pas les lire.
On s'est dit que ça ferait peut-être sens d'autopromo et qu'on se ferait jeter des pierres ensuite. Et que les gens voudraient plus écouter notre podcast.
En tout cas, ça fait très plaisir. On adore ça. Merci beaucoup. On remercie également nos tipeurs du mois qui nous soutiennent donc sur Tipeee.com, qui est une plateforme pour soutenir les créateurs de contenu comme nous.
Robin qui nous dit oh, voici 5€ pour vous. Wouhou, j'aime beaucoup vos podcasts dans les transports. Ça me détend. Bon courage pour l'écriture.
Bah super, Robin. On te détend dans les transports. Ça nous fait plaisir. Marie nous dit aussi pour vous souhaiter un très bon anniversaire et soutenir ceux qui font plutôt que ceux qui râlent. Continuez, messieurs. Bah, merci, Marie.
Merci aussi à Isoura.
Merci à Quentin Lebeig.
Hussein.
Merci à Sauvan.
Arié et François.
Merci à Benjamin.
Daniel.
Et merci à Pascal et Marianne.
Voilà, merci vraiment à tous. Donc c'est simple, si comme eux vous voulez nous soutenir, le lien vers notre page Tipeee est dans la description de ce super podcast.
Partagez, soutenez.
Rejoignez la cause.
On pourrait mettre un genre de truc subliminal qui fait que tu sors ton portefeuille.
Ouais, si tu veux, un petit bruit.
Et que t'ouvres iTunes pour mettre un commentaire quand t'écoutes ce podcast.
Alors ce mois-ci, Mathieu, pour ce 13e podcast, nous recevons Yves Lavandier, scénariste, réalisateur et auteur de la dramaturgie « Construire un récit » ou encore « Évaluer un scénario » aux éditions « Le clown et l'enfant ». Salut Yves, comment ça va ?
Bonjour les amis.
On reçoit aussi Nathalie Lenoir qui est scénariste, réalisatrice et la plume derrière le site scenariobuzz.com. Salut Nathalie.
Hello.
Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas eu parmi nous. Yacine Badet, également scénariste. Salut Yacine.
Bonjour.
Ça va ?
Magnifique.
Bon. Je sais pas pourquoi, mais je te crois pas trop.
Ouais, c'est vrai.
Tout va bien.
Les petits yeux.
Bon, on commence par le petit tour de table mensuel. Sur quoi vous bossez en ce moment ? Bah tiens Yacine, toi qui as l'air réveillé, dis-nous tout.
Toi qui as l'air d'avoir trop travaillé pour être en forme ce matin.
On vient de finir avec Chloé Maslow, avec qui je bosse, la session 2017 de la sélection Fondation GAN Groupe Ouest, qui est toute une session de travail et de présentation de notre projet de long métrage avec 9 autres projets. Ça s'est super bien passé. La présentation, c'était il y a 2 semaines, et maintenant on rencontre des gens, on met à jour le traitement et tout ça, tout ça. Et puis j'ai commencé à bosser sur une série d'animations pour Melting Prod et Anoki. Une série feuilletonnante pour adultes en tout début d'écriture, donc on va voir.
Eh bien super. Nathalie, sur quoi tu bosses en ce moment ?
Eh bien en ce moment, j'écris une comédie gros budget pour un producteur et je travaille en parallèle sur mon premier long métrage en tant que réalisatrice avec un tout petit budget pour le coup, histoire d'équilibrer les forces.
Eh bien super. Yves, sur quoi tu bosses en ce moment ?
Beaucoup de choses en même temps. Je suis en train d'écrire un livret d'opéra qui m'a été commandé par un... Enfin, pas commandé d'ailleurs, parce qu'en fait, il m'a laissé libre cours. C'est un compositeur qui s'appelle Benjamin Hamon, compositeur contemporain, que j'ai aidé à écrire son précédent livret et qui m'a dit « faisons un opéra ensemble à partir d'un inventer un conte pour enfants et voilà, écrire un opéra là-dessus ». Et c'est une aventure passionnante, extrêmement enrichissante.
Super. Un opéra, il faut de la dramaturgie pour ça.
Il paraît, ouais.
Il n'y a pas que des dialogues en théorie.
Enfin, si on se contente des dialogues, moi, je pense qu'on est mal barré.
Je crois qu'il faut de la musique aussi.
Il faut de la musique, il faut de la structure, il faut des personnages, etc. Et puis voilà, je viens de terminer un projet perso, un long métrage que j'aimerais bien réaliser, en respectant scrupuleusement, mais vraiment à la lettre, ma méthode. Et ça a été un bonheur. Donc je peux dire au moins une chose, ma méthode, elle marche pour moi. Elle marche peut-être pas pour tout le monde, mais... Je vous assure qu'elle marche super bien pour moi. Ça a été hyper jouissif, vraiment. Alors je ne sais pas après le résultat, c'est encore autre chose. Je commence à le faire lire, les retours arrivent, mais ouais, vraiment, très belle expérience aussi.
Est-ce qu'on peut dire quel type de film c'est, quel genre peut-être ?
Plutôt de la comédie, non ?
Non, bah justement, c'est pas... C'est un film d'époque, un peu mélo, avec de la légèreté, parce que le mélo pur, ça me gave bien, mais... non, je préfère pas trop en dire pour l'instant.
Ok, pas de soucis.
Mais bon, voilà. Et puis l'année dernière, j'ai aidé un producteur à mettre en forme un sujet qui lui tenait à cœur. Donc là, il est en recherche de financement. Il veut faire un gros truc international. Bon, ce serait cool que ça se fasse, mais on fait un métier de marathonien, pas de coureur de 100 mètres. Donc, même pas de marathonien, d'ailleurs, de triathlète. Donc, voilà, ça peut prendre 10 ans, ça peut ne jamais se faire, ça peut... Et puis sinon, le tout venant, mes bouquins, script doctoring, atelier, enfin voilà.
Des journées bien remplies.
Tous azimuts, oui, j'ai de quoi m'occuper, ouais. Il me faudrait 3 vies.
Eh ben, tant que tu as la parole, tu vas la garder, Yves. On va un petit peu parler de toi avant de parler de tes livres. Déjà, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui es-tu, d'où viens-tu, comment est-ce que tu as commencé ?
Quel est ton parcours ?
Quel est ton parcours, voilà. En moins de 3 heures ?
En moins de 3 heures, oui. J'ai d'abord été cinéphile, très jeune d'ailleurs, à 12-13 ans, je me faisais des... Non mais je ne vais pas commencer avec le déluge, hein, je vais vite passer à la fin.
Tu prends le temps qu'il te faut.
C'est l'avantage du podcast. Je me faisais des week-ends à la Cinémathèque à 14 ans, enfin j'étais un peu un fou furieux, j'achetais toutes les revues de cinéma possibles de l'époque. Donc là je suis né en 59, donc on parle de 72-73. Et puis... comme j'ai eu le malheur, entre guillemets, d'être assez bon à l'école, en fait, j'ai été poussé à faire des études supérieures qui ne m'ont pas passionné, mais bon, voilà, je les ai faites. Ce qui fait que je suis ingénieur, en fait. me demandez pas de faire un calcul de poutrelles, je pense que ce serait risqué, mais théoriquement, je suis censé être capable de le faire. Et puis, j'ai vaguement bifurqué vers l'architecture, et puis très très vite, c'était le cinéma, quoi, vraiment, qui me passionnait. Et à l'époque, là, on est en début des années 80, il y avait deux grandes écoles de cinéma en France. Il y avait l'IDEC, qui avait très mauvaise réputation. J'en sais rien, j'ai jamais mis les pieds, mais d'après ce que j'entendais, formait plus des militants politiques que des cinéastes. Et c'est devenu la FEMIS ensuite, il y a eu une rupture, et au milieu des années 80, c'est devenu la FEMIS. Et puis, il y avait une autre école de cinéma qui s'appelait Louis Lumière, qui je crois existe toujours, mais qui était une école plus de techniciens, en fait, hein, pour former des ingénieurs du son, des directeurs de la photo, etc. Comme je pense que toutes les activités humaines s'apprennent, sauf peut-être digérer et respirer, mais tout le reste, ça s'apprend. Je me suis dit, si j'ai envie de faire du cinéma, il faut que j'aille dans une école, il faut que j'apprenne les règles. Voilà, vu l'offre qu'il y avait en France à l'époque, hein, on est en 80, 81, j'ai postulé dans des universités américaines et j'ai été accepté à Columbia University à New York. Donc là, on est en 83, où je suis allé et j'ai fait 2 ans d'études de cinéma et j'ai passé 2 des plus belles années de ma vie. Parce que c'était à New York d'abord, parce que c'était en anglais, parce que c'était, je faisais enfin ce que j'avais toujours finalement rêvé de faire. Voilà, et je suis revenu en France en 85, j'ai commencé à gagner ma vie dans l'écriture en fait, comme scénariste de télé, un peu de cinéma, mais surtout de télévision. Et en fait, mon activité de pédagogue et de script docteur est venue après. J'ai d'abord gagné ma vie comme scénariste.
À l'université, du coup, tu as appris la technique de
ouais.
scénario.
Ah ouais,
comment
oui,
ça s'est
sûr,
passé,
ouais.
L'enseignement aux États-Unis ?
Il y avait plusieurs, c'est un peu comme en fac en France, il y avait des UV, donc il y avait plusieurs profs, plusieurs cours, des cours d'analyse de scénario, des cours des ateliers d'écriture, où on était une demi-douzaine avec un prof et il nous demandait de faire des exercices et voilà, on écrivait et puis au bout d'un moment on développait un long métrage, etc. Bien sûr, il y avait du matériel. À l'époque, c'était vidéo, 3/4 de pouce et 16 mm.
Oula.
Il y avait, ouais c'était les pionniers. Enfin, non, il y avait bien pionniers avant nous, mais. Et il y avait donc du matos, il y avait des salles de montage, des caméras, du matériel d'éclairage, etc. Donc on faisait des courts-métrages. Moi, j'ai fait 8 courts-métrages là-bas. J'en ai profité à mort. Voilà.
Et alors, le retour en France n'a pas été trop dur suite à 2 ans aux États-Unis ?
Non, parce que j'étais marié, ma femme m'avait accompagné, on avait envie de faire des enfants et pas de les élever à New York. Donc, en plus, elle avait d'autres études à finir, donc non, ça avait du sens de revenir et puis de commencer à... Ça me paraissait pas plus difficile de percer dans le cinéma en France qu'aux États-Unis, et puis bon, voilà, pour des raisons familiales aussi, non, ça avait du sens de revenir.
Est-ce que tu as constaté des différences majeures, peut-être dans les mentalités, entre ce qui se fait aux États-Unis et ce qui se fait en France?
Bah oui, à l'époque, parce que ça a changé, c'était il y a 30 ans, plus de 30 ans. À l'époque, le scénario était très maltraité en France. Il l'est toujours, mais un peu moins. Mais oui, à l'époque, c'était une catastrophe. Je me souviens, je suis rentré en 85, et on parlait de la crise du scénario en France, en 85-86. On ne faisait pas grand-chose pour la résoudre la crise, mais on en parlait déjà. C'était marrant. Aux États-Unis, ils sont plus pragmatiques, plus ouverts à l'art du récit qu'ils ne l'étaient à l'époque en France, et puis même qu'ils le sont toujours un peu. Voilà, donc j'ai constaté ces différences-là. Oui.
Alors, comment as-tu eu l'idée de la dramaturgie ?
Le livre. Parce que c'est le fait de ne pas pouvoir le lire, qu'il n'existait pas, il fallait le faire soi-même ?
Oui, il y a un peu de ça. Oui et non, en fait... C'est vrai que ma première démarche, c'est la démarche d'aller dans une université, une école de cinéma, c'est d'apprendre pour mon propre travail. J'avais envie de faire du cinéma en tant que scénariste réalisateur. Je me suis dit, il y a des règles, allons les apprendre. Voilà. Bon. Ensuite, je reviens en 85 et je commence à trouver du travail comme scénariste, au bout d'un an et demi. Et en même temps, il y a un peu comme le poison dans l'oreille de Hamlet Senior. Il y a quelqu'un qui, je ne sais pas, c'était en 87, quelqu'un qui me dit « tu devrais monter les ateliers ». Bon, ça, comme ça, c'était au printemps 87, et puis ben, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et septembre 87, j'ai lancé un premier atelier d'écriture qui était basé sur ce que j'avais, le type d'enseignement que j'avais reçu à Columbia. Donc c'était le même principe. Et puis ça a démarré comme ça. Donc là, on est en septembre 87. En octobre ou en novembre, j'ai plus les dates exactes ni l'heure, mais l'un de mes élèves me dit « ce serait sympa si tu mettais tes notes de cours au propre ». Parce qu'en fait, chaque séance, donc c'était une demi-journée par semaine, on se voyait chaque semaine, pendant 4 heures à peu près, et pendant une demi-heure, je faisais de la théorie. Je leur expliquais, protagoniste, objectif, conflit, etc. Et je leur faisais analyser des œuvres. Je leur disais, pour la semaine prochaine, vous regardez La mort aux trousses, ou vous lisez Hamlet, ou Édipe Roy, ou En attendant Godot, et on l'analysera la semaine prochaine. Et donc j'avais commencé à mettre quelques notes noir sur blanc, quoi. Et ils m'ont demandé de mettre ça au propre. Et ça a donné le premier jet de la dramaturgie. Je vous l'ai amené d'ailleurs.
Oh, super.
Ça fait 8 pages. C'est rigolo. Je vous l'amène.
Démonstration en direct.
Attention.
Le premier jet de la dramaturgie. Attention, archive.
8 pages et demie.
Waouh.
Voilà. Attention, document historique.
Ça, c'est, main de ça c'est émouvant pour le coup.
Donc 8 pages et demie, polycopié. C'est le tout premier jet. Alors, bien sûr.
Et aujourd'hui, on en est à.
Oh, bah, alors là, je ne compte plus. On est à 800 pages.
550.
Ouais. Ah oui, mais il faut ajouter
la
ça.
La dramaturgie, oui.
Après, je les ai séparés.
Moi, j'ai la 4e édition, qui jaunit.
Oui, alors celle-là, elle est plus épaisse parce que le papier est bouffant, mais c'est en ça, fait, ouais. C'est pas plus épais.
On a ramené les archives.
Ce qui est bien, c'est qu'il sent bon, le papier, encore. Donc, c'est toujours un plaisir de l'ouvrir. Ah.
Mais pourtant, tu sais, il n'y a plus de papier.
C'est vrai.
Je le dis.
Il n'y a plus de papier, tu le dis souvent. Et, puis,
et pourtant, si.
Enfin, voilà, donc au bout de... Ça n'a pas grand intérêt à lire, mais... c'est vraiment le tout premier jet, et puis au fil des semaines, des mois, au fil de la conduite de l'atelier, de mes sorties culturelles, de mes réflexions, ça s'est épaissi. Et en 92, à peu près, j'ai dépassé 100 pages. Et je me suis dit, ça a l'air de rendre service, je dois tenir un bouquin. Donc j'ai encore réécrit dans l'optique d'un livre. Et j'étais prêt fin 93 à peu près. Je l'ai envoyé à quelques éditeurs. Il y en a qui n'ont pas répondu, il y en a qui ont dit non. Il y en a un qui est Belin qui était intéressé, qui voulait vraiment le faire. Sauf qu'il voulait changer le titre. Il voulait mettre scénario dans le titre. Il m'a dit ce sera plus vendeur. J'ai dit oui, vous avez raison, ce sera plus vendeur. Mais à long terme, d'abord c'est pas juste. Puisque je parle de théâtre, je parle de... contes de fées, d'opéra, etc. Et à long terme, la dramaturgie, c'est adéquate et ça aura le même succès. Si vous voulez faire un coup, d'accord, on va mettre scénario, mais sinon ça... Et puis, vous voulez faire plein d'autres changements et tout. Bon, alors, bref, ça m'a gavé, donc j'ai créé ma société, puis j'ai édité moi-même. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en 93, hein, fin 93, le mot dramaturgie, bon, vous êtes trop jeune, vous vous rendez pas compte, mais je vous jure, le mot dramaturgie n'existait pas dans la langue française.
C'est vrai?
Non, vraiment. Enfin, il est bien sûr qu'il existait, mais il n'était pas usité du tout. On ne l'entendait jamais. Aujourd'hui, les journalistes sportifs parlent de dramaturgie à tout bout de champ. Tout le monde parle de dramaturgie. Bon, j'ai l'immodestie de penser que j'y suis un petit peu pour quelque chose, mais ce n'est pas pour ça que je vous le dis. C'est parce que je comprends que le mot faisait peur à cet éditeur. Ça faisait très universitaire, la dramaturgie. Bon, aujourd'hui, ça fait plus peur et on l'utilise beaucoup.
Du coup, ton passif d'ingénieur, t'as donné cette méthode, cette rigueur qui t'a permis d'accoucher de cet ouvrage.
Oui, assez... oui, c'est ma structure cérébrale, mais très carré, bien sûr. Oui, c'est ça qui m'a... Qui, à la fois le cadre, les règles, et l'ordre... tout ça, c'est des mots tabous pour les artistes, mais moi, ça ne me dérange pas. Donc...
Oui, ce que j'allais dire, certains n'aiment pas admettre qu'il y ait des règles pour écrire. Que plutôt on s'assoit, on écrit et puis ça vient tout seul. Alors que pas du tout.
Mais non, mais même ceux-là connaissent les règles, mais au moins de façon... Enfin d'abord, certains ils les connaissent pas du tout, ni consciemment ni inconsciemment, mais quand vous laissez venir, vous avez quand même des règles en vous. Oui. Vous avez les règles de façon inconsciente.
Oui, on
J'ai
applique des règles.
Oui. Beaucoup discuté de ça avec Francis Weber à maintes reprises, et je sais que jusqu'à très très récemment, il écrivait sans méthode, sans règles, de façon intuitive. Mais bien sûr, les règles, il les connaît. De façon inconsciente, il les connaît. Alors après, on discute, alors je lui explique protagoniste, objectif. Je vous jure, hein, c'est une discussion que j'ai eue avec Weber. Protagoniste, objectif. Il dit, ah oui, d'accord. Alors, donc le protagoniste dans Les Fugitifs, c'est le personnage joué par Pierre Richard. Je dis, non, c'est le personnage joué par Gérard Depardieu. En tout cas, dans la première moitié. Parce que c'est lui qui vit le plus de conflits. Mais c'est vrai que Pierre Richard a aussi un objectif. Donc, confusion et tout. Et voilà, donc c'est des discussions qui le passionnent, même si lui, sa méthode est autre. Maintenant, quand vous laissez aller, vous laissez votre hémisphère droit écrire tout seul, il y a un moment où l'hémisphère gauche intervient, où vous réécrivez, où vous remettez, comme disait Boileau, 20 fois sur l'ouvrage, 20 fois l'ouvrage sur le métier, et à ce moment-là, bah, vous utilisez votre hémisphère gauche, votre conscient et vos règles.
Et sur l'organisation des sujets, tu as voulu très vite parler du personnage, de l'objectif. C'était pour toi le nœud, le cœur de cette dramaturgie ?
Non, le cœur, c'est le conflit.
Le cœur, c'est le conflit ?
Ouais. Conflit, conflit, conflit. À la limite, si on s'occupe que de ça, déjà, on a 50% de sauver le conflit. Et préférence dynamique. Mais oui, ça, c'est vraiment le plus important. C'est ce qui pêche souvent, c'est ce qui permet tout... Ça, c'est magique, le conflit.
Le conflit, c'est magique. Le conflit, c'est magique, ouais, ouais. Super.
Ah, mais je voudrais surtout entendre mes camarades à côté.
Ils sont sans voix.
Mais en fait, on est un peu... Enfin, moi, je suis un peu émue parce que je pense que je fais partie de tes très, très nombreux enfants spirituels. C'est vrai que ton livre, c'est le tout premier que j'ai lu quand j'ai voulu me former, justement. Moi, je n'ai pas eu la possibilité d'intégrer une école à l'époque parce que j'étais trop jeune et déjà maman. Mais j'avais conscience qu'effectivement, bah, ça s'apprenait la dramaturgie. Et donc, bah, ton livre, c'est le premier que j'ai lu, c'est celui qui a tout débloqué, j'ai envie de dire, qui m'a fait sentir un peu plus intelligente quand je l'ai fini. Comme tu disais, effectivement, on se rend compte qu'il y a certaines notions qu'on avait intégrées inconsciemment, sans doute par la cinéphilie, tout simplement. J'avais l'impression que toutes ces pensées s'organisaient, justement, devenaient un petit peu organiques et que du coup, ça devenait envisageable pour moi d'écrire un scénario. Donc c'est vrai que j'en ai lu beaucoup d'autres, des ouvrages par la suite, mais ça reste vraiment celui vers lequel je suis revenue régulièrement, celui qui a la pierre angulaire un petit peu de mon apprentissage.
Bah,
et c'est vrai que je le recommande, bah, spontanément quand on me demande, c'est ce que je dis toujours à mes lecteurs, s'il faut en lire un, c'est celui-là, quoi, à mon sens.
Merci Nathalie.
Toi Yacine, tu as un souvenir de dramaturgie ?
Oui, bien sûr.
De la dramaturgie.
La dramaturgie. Moi, je crois que c'est le second ouvrage que j'ai lu.
Ah non, mauvaise réponse.
Dehors.
Après quoi ?
Il faut je
la poétique
tout de suite.
D'Aristote.
Non, donc j'avais, je crois, 15 ou 16 ans. C'était une époque assez lointaine. C'était l'époque du magazine Synopsis de Laurent Delmas, qui était extrêmement enrichissant et qui avait pas mal parlé de la dramaturgie à l'époque. Donc j'avais lu avant le magnifique... comment faire d'un bon scénario un scénario formidable de Linda Seger, j'avais 15 ans. Et du coup, il y a eu un vrai bond quand je suis passé à la dramaturgie. Ce qui a été vraiment éclairant, et encore maintenant, et ce qui est vraiment le fait que l'ouvrage est novateur, et je comprends du coup la volonté de parler de dramaturgie, non pas de scénario dans le titre, c'était de parler aussi bien de l'école des femmes que de certains Lemcho, et du coup de briser certaines barrières ou classifications pour parler du récit au sens large, et du coup de permettre au lecteur de puiser des exemples partout, et notamment il y a un passage que j'aime beaucoup qui est sur Tintin en Amérique, je sais pas dans quelle édition, mais magnifique. Alors moi j'ai celle de 98-99 et voilà, et qui Tintin en Amérique est donc, pour petite digression, une suite de strips sortis indépendamment les uns des autres, enfin diffusés dans un quotidien, je crois que c'était le Petit 20e, enfin dans un hebdomadaire, le Petit 20e, et qui ensuite ont été artificiellement rassemblés en album. Et Yves Lavandier parle de ces conflits qui se succèdent sans unité, sans enjeu émotionnel global, sans véritable allant, sans dynamique de récit, et c'est super intéressant là-dessus, et de se rendre compte que que les situations non plus ne font pas tout et tout ça. Donc ça permettait en fait de se construire sa propre vision de la dramaturgie ou du scénario à partir d'exemples plus ou moins accessibles, enfin voilà, qui étaient inscrits dans le quotidien, dans la pop culture, dans les lettres classiques, et ça a été, je me répète, mais vraiment extrêmement éclairant.
J'ai sous les yeux ce premier jet
de 8 pages et demie.
Et déjà on a des références qui vont de Hamlet, des femmes savantes, du Malin d'imaginaire à quelques pages plus loin l'emmerdeur, Alien.
Ça va bien, Mathieu, Alien.
Bah oui, c'est pour ça, je suis content, j'ai vu Alien, Alien et Aliens. Ça fait plaisir. Enfin, tu vois, c'est ce que tu dis. Dès le début, dès l'origine, on a déjà un large spectre de références. Ce qui est toujours très bien. On n'est pas limité en fait à ce qu'on connaît.
Ça me fait très plaisir de mettre Astérix à côté d'Hamlet. Je sais que ça défrise quelques-uns, mais parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas de, il n'y a pas d'art mineur. Il y a des œuvres réussies, des œuvres ratées. Et Astérix est une grande œuvre de la bande dessinée, donc ça mérite d'être à côté d'Hamlet.
Tu es devenu donc un référent pour beaucoup de gens. On imagine que tu reçois du coup beaucoup de questions, que ce soit surtout par courriel ou mail, pardon. Qu'est-ce que tu fais de toutes ces remarques des lecteurs ? Est-ce que tu les intègres ?
Alors, je les intègre, bien sûr. Enfin, j'en tiens compte, je réponds et j'en reçois très peu.
Ah, d'accord. Donc on s'est trompé.
Alors, les gens, qu'est-ce que vous faites ?
Bah écoute, je sais pas.
Tant mieux, Romain, que t'es moins embêté comme ça.
Ouais. Non, je reçois des...
Peut-être les livres sont tellement clairs qu'il n'y a plus de questions à poser.
Bah voilà, j'osais pas le dire, merci. C'est peut-être ça.
Pourquoi du coup rééditer le livre et le réviser ? Est-ce que la dramaturgie évolue ?
Oui, bien sûr. Non seulement la dramaturgie évolue, les grands principes, à mon avis, sont immuables, universels et n'évolueront pas. Bon, c'est un peu catégorique, mais je le vois comme ça. En revanche, elle s'enrichit incroyablement. Les séries télé anglo-saxonnes de ces 20 dernières années ont considérablement enrichi le répertoire. Je suis fasciné de la richesse du répertoire. Mon livre a été acheté par un éditeur chinois il y a 2 ans maintenant, il est en cours de traduction, il va être édité en Chine. Et par courtoisie, je connaissais très mal le cinéma chinois. Par courtoisie, j'ai voulu voir des films chinois. Donc j'ai regardé une cinquantaine de films, surtout de Chine continentale, parce qu'il y a 3 cinémas chinois en fait. Il y a la Chine continentale, Hong Kong et Taïwan. Et j'ai surtout regardé du cinéma continental. Et j'ai découvert, parce que la dramaturgie, le récit plus généralement, est un vecteur culturel extrêmement puissant, et j'ai voyagé en Chine en voyant ces 50 films. J'ai découvert des trucs, j'ai vu des documentaires, j'ai vu des vieilles histoires, et c'est fascinant, c'est passionnant. Quand on part de ces films-là, le Roi des Masques, Pas un de moins, ou un film japonais comme Departures, qui parle des enterrements, du cérémonial des enterrements au Japon, ou quand on regarde La vie des autres, qui parle de l'Allemagne de l'Est, de la Stasi, etc. Quand on va voir Dans ses yeux, le film argentin. Enfin, on peut voyager dans toutes les cultures du monde, ou les films de Kiarostami en Iran. Et il y a une richesse inouïe, inouïe. En plus, avec de jolis, jolis récits. Enfin, il y en a beaucoup de ratés, mais il y en a quand même plein de réussis. Et je repense à chaque fois à Aristote qui, il y a 2400 ans, n'avait que le répertoire de l'époque, les pièces grecques, d'Eschyle, de Ripide, Thespis, etc., à sa disposition. Et aujourd'hui, on a une richesse incroyable. Donc oui, le répertoire s'enrichit, et ma réflexion s'enrichit aussi. Ma réflexion est vivante. Ça s'arrêtera à ma mort, mais jusqu'à ce que je meure, je ne peux pas m'empêcher de... D'abord, moi, j'ai besoin d'histoire. J'adore mes 4 mots préférés dans la langue française, c'est « il »,« était », »,« une » et « foi ». Et j'adore qu'on me raconte des histoires, sous quelque forme que ce soit. Donc, je continue à en recevoir, et ben, je continue à enrichir ma réflexion. J'ai découvert, il y a un an ou deux, je ne sais plus, dans la deuxième saison de The Walking Dead, l'épisode 9 à peu près, enfin au milieu, une résolution de mystère fabuleuse. Je veux pas spoiler, mais il y a un moment où on est sur une autre sous-intrigue, et elle est résolue en même temps que un mystère est éclairci, et ça crée une vraie surprise. C'est très très rare que un éclaircissement de mystère, une résolution de mystère soit surprenant. C'est très très rare. Et là, c'est hyper surprenant, c'est waouh, j'étais bluffé, j'ai jamais vu ça ailleurs dans le répertoire. Donc hop, l'édition suivante, c'est dans mon bouquin forcément.
The Walking Dead arrive à côté de Molière.
Et voilà, et The Walking Dead se retrouve
The Walking Molière
à côté de l'école des femmes. Ouais, c'est ça qui est chouette.
Et alors, la première édition date de quelle année ?
Avril 94.
94, là on en est à la 7e, je crois.
Ouais.
Au fil du temps, qu'est-ce que ce livre t'a apporté ?
Ouais, il m'a apporté beaucoup. Il m'a, outre le réseau, les contacts, bon, etc. Mais en fait, franchement, à l'origine, c'est une démarche d'auteur, en fait. J'ai pas... C'est un concours de circonstances, je lance ces ateliers, on me demande de prendre des notes, je le fais, etc. Mais je pense que si j'ai lancé ces ateliers, c'était pas pour évangéliser quoi que ce soit, c'était pour moi-même mettre, comment dire, conscientiser des règles dont j'avais besoin moi-même en tant qu'auteur. Et on en revient à ma présentation, à ma réponse tout à l'heure sur qu'est-ce que tu es en train de faire. Je suis enchanté d'avoir écrit, construit un récit pour moi. Parce que, voilà, ça marche super bien. Quoi. Et donc, toutes ces réflexions-là, alors peut-être que je suis arrivé à un stade où j'ai plus besoin de rééditer, de réviser, d'augmenter, parce que peut-être j'ai atteint ce stade-là, j'en sais rien. Donc voilà, ça m'a apporté ça. Ça m'a apporté un voyage fabuleux. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand au printemps 87, on me dit « tu devrais monter les ateliers » et que je me dis « ok, à la rentrée de septembre, donc il y a 30 ans, hein, je démarre un atelier, il a fallu que je le prépare quand même. » Et l'un de mes ouvrages de référence, c'est un livre d'Edouard Mablet qui s'appelle « Dramatic Construction », qui est un livre de 72 que j'avais... survolé, on va dire, à Columbia, que l'un de mes profs de scénario nous avait recommandé à Columbia University. Il était dans la bibliothèque, je l'avais un peu regardé, mais pas à fond. Et dans Dramatic Construction, Mablet analyse 24 œuvres, 22 pièces de théâtre et 2 films. Et ça va de Édipe Roy, de Sophocle, à Marassade, de Peter Weiss. C'est-à-dire... tout le répertoire théâtral occidental, en passant par le Tartuffe, les Revenants d'Ibsen, Godot, enfin, etc., etc. Donc vraiment très large, très vaste. Et pour préparer cet atelier de septembre 87, j'ai lu toutes les pièces, les 24 œuvres, ou revues, les 24 œuvres en question, lu toutes les analyses de Mablet, et je peux vous dire que, et c'était, je m'en souviens très très bien, c'était au mois de juin 87, j'ai fait un voyage sublime, mais fabuleux, dans l'humanité en fait. Un voyage dans le théâtre mondial, bon alors mondial, un peu occidental, hein, mais grec, allemand, italien, enfin, etc. Et voilà, découvert des personnages, des univers, des thèmes, enfin un voyage fabuleux. Et j'espère que j'offre ce même type de voyage à mes lecteurs. Et si c'est le cas, j'en suis enchanté.
Oui, oui, c'est le cas.
Merci.
Alors, la dramaturgie a donné naissance au fil des éditions à deux nouveaux livres qui sont Évaluer un scénario et Construire un récit. Quelle est leur histoire ? Pourquoi avoir scindé la dramaturgie en trois ?
C'était en 2011, je crois. Je me suis rendu compte qu'il y avait une partie pratique jusqu'à l'édition de 2008. Il y avait les chapitres 16 et 17 qui étaient vraiment... passage à l'acte. Voilà. Je viens d'expliquer en gros, j'ai essayé de vous expliquer la théorie, même s'il y avait des petits trucs, des petits conseils à droite à gauche glissés dans la théorie, mais enfin globalement c'était un corpus théorique. Et chapitre 16 et chapitre 17, passage à l'acte. Voilà ce que je vous suggère, voilà une méthode, si vous avez envie d'écrire, fondée sur ce dont je viens de parler dans les 15 premiers chapitres. Et je me suis rendu compte que ces 40 pages, chapitres 16 et 17, étaient noyées, en fait, dans le reste, dans le corpus théorique. Et comme, en plus, j'avais envie de les développer, bah, je les ai sortis, je les ai enlevés du corpus théorique, et puis je les ai développés, et les 40 pages sont devenues 220 pages, et ça a donné, donc, construire un récit et évaluer un scénario. Alors, évaluer un scénario, non, c'est encore autre chose. C'était une annexe, c'était le chapitre 22 ou 23, je ne sais plus, qui faisait 3-4 pages et qui est devenu 40.
Alors comment as-tu conçu cette méthode pour construire un récit? Comment tu es passé de la théorie à la pratique?
C'est en partie fondé sur ce que j'ai appris aux États-Unis, à New York. C'est fondé sur ma pratique perso, sur les ateliers d'écriture. En fait, moi, le principe, il est assez simple. Hein, c'est construire un récit comme on construit un bâtiment. C'est-à-dire, on commence par les fondations. J'entends bien et je respecte que d'autres ont d'autres méthodes. Mais bon, voilà, moi, c'est celle que je propose et convient à peu près à 50% des gens. Vous commencez par les fondations, ensuite les murs, la charpente, et vous terminez par le papier peint et les boutons de porte.
Moi qui suis en train d'acheter un appartement, je m'y retrouve totalement.
Il se trouve, dans le BTP, on ne peut pas construire un bâtiment autrement. On ne peut pas commencer par le papier peint et les boutons de porte, ça ne marche pas. Mais dans le récit, j'ai des copains qui laissent leur... Je parlais d'hémisphère droit tout à l'heure, laissent leur hémisphère droit libre cours, et puis voilà, pondent, tiens, super, une idée de bouton de porte. Allez, je note. Ah, tiens, 3-4 briques, allez, je prends. Puis une poutre, etc. Ils se retrouvent avec un joli bordel. Je pèse mes mots, c'est-à-dire que c'est un bordel. Ouais, mais il est joli. Ouais. c'est joli, mais enfin, c'est quand même un bordel. Bon. Et qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Ils essayent quand même de mettre un peu d'ordre après. Comme disait l'autre, writing is rewriting.
Mais moi, ce que je trouve admirable, justement, dans ta méthode, c'est qu'elle peut paraître un petit peu, comme toutes les méthodes, trop rigoriste. Et je trouve que ce n'est pas le cas, justement. Je trouve qu'elle elle permet d'ouvrir aussi l'étudiant à créer sa propre méthode, justement, à partir de tout ce concentré de sagesse et cet aspect organique d'un récit. Effectivement, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est mieux de commencer par les fondations. Mais effectivement, je me rappelle que je suis sortie de la lecture, justement, sans me dire, voilà, il y a une façon de faire et une seule. Ça m'a plutôt poussée à faire ma propre petite cuisine.
Ça, c'est l'idéal. C'est l'idéal, c'est que chacun se fasse. Mais moi, d'ailleurs... Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le relire, mais je cite Trouby dedans.
Oui,
je cite Blake Snyder, je cite Mackie. Pourquoi? Parce que Trouby m'a donné des idées. Donc, autant le créditer. Mais son idée de faux alliés et de faux adversaires, je trouve que c'est une super idée. Moi-même, j'ai... Et je trouve, Nathalie a raison, la meilleure méthode... C'est la méthode, la petite tambouille qu'on se crée à partir des uns et des autres, de son expérience, etc. Maintenant, la meilleure méthode, en fait, c'est quand même celle qui donne des résultats. Parce que si
c'est vrai.
Vous avez une méthode perso dont vous êtes très content, mais que les résultats sont ni faits ni à faire, c'est un peu embêtant. Soit changer de méthode, soit changer de métier.
D'ailleurs, Blake Snyder, qui a eu la même méthode que toi, du moins au début, c'est-à-dire regarder plein d'œuvres, et il lisait des scénarios, lui, beaucoup, il était lecteur, et il se disait, mais pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche pas? Il analysait vraiment, de manière chirurgicale, chaque film qu'il lisait.
Pourquoi tout le monde me regarde?
Oui, je sais plus.
Parce qu'il y a un blanc. Donc ça va être coupé au montage.
Tu parlais de cuisine, regardez la couverture.
Ah ouais.
Au début, ça nous a dit, qu'est-ce que c'est?
Un chou romanesco.
Chou romanesco.
Est-ce que tu peux nous parler du chou romanesco, Yves?
Bon, c'est juste un exemple assez spectaculaire de structure fractale. Dans la nature, il y en a plein. C'est l'un des exemples de structure fractale. Et comme je pense que le récit est une structure fractale, ça me paraissait sympa pour illustrer ça. Voilà.
Tu parles beaucoup, tu reviens notamment dans le début de ce livre sur l'importance des règles. Pourquoi c'est important pour toi? Pourquoi ça devrait l'être pour les autres?
Et moi, je pense qu'il y a des règles dans toutes les activités humaines et même dans la nature. Donc, je sais que le mot règle, effraie beaucoup d'artistes. Et d'ailleurs, en général, quand ils sont allergiques aux règles, ils les appellent des recettes. Qui veut noyer le chien de son voisin l'accuse de la rage. Quoi. On caricature l'autre pour mieux l'enterrer. Non, moi, j'ai pas de problème avec les règles. Eugene O'Neill disait que les règles sont faites pour être tordues. Peut-être pas cassées, mais tordues. Mais qu'avant de les tordre, il faut les connaître. Je suis ravi de ce que vient de dire Nathalie. Mais encore une fois, c'est aussi parce que c'est à l'origine, c'est vraiment conçu comme un outil pour... ça va peut-être paraître un peu égoïste, mais c'est vraiment pour... Moi, pour que je puisse, moi, écrire. Et j'ai pas envie de m'enfermer dans des dogmes, dans, façon Sitfield, si page 30, ton deuxième acte n'est pas démarré, t'es dans la merde. je trouve ça grotesque. Je suis ravi que Nathalie le sente, parce que c'est vraiment ce que j'ai voulu. Je ne veux pas quelque chose de rigide, voilà, de rigoureux, oui, de régulier au sens règle, régulier et rigoureux, mais pas rigide. Voilà.
Des règles sans rigidité, du coup.
Voilà, voilà. Exactement. Et si ça permet de... Si ça, comment dire, suscite la créativité, j'ai atteint mon but, c'est l'idéal.
Ce qui est très chouette dans l'ouvrage Construire un récit, c'est vraiment ces fondations dont tu parles. Et pour le coup, c'est la première fois que j'ai l'impression d'avoir une méthode assez claire sur comment construire le point de départ d'un film. Disons, voilà, ce moment de travail important qui est les fondations et qui permet vraiment de pouvoir partir sereinement sur la suite. Donc c'est chouette.
Merci.
Et c'est pas une question.
Et c'est pas une question. Non, non.
Parlons un petit peu d'évaluer un scénario qui est assez étonnant parce que finalement, on parle peu de la lecture de scénarios, notamment en France. On peut se demander aussi pourquoi est-ce qu'on a tous intérêt à apprendre à évaluer un scénario. C'est quelque chose d'important aussi quand on écrit.
Est-ce que Nathalie, Yacine, vous évaluez des scénarios régulièrement ?
Moi, ça m'arrive, oui, effectivement. Assez régulièrement, dans le cadre de concours ou parfois pour un doctoring. Donc oui, et je pense que c'est une science qui doit être aussi être enseignée. C'est non seulement important pour l'industrie, mais c'est aussi un formidable moyen d'apprentissage. Moi, c'est vrai qu'à mes débuts, justement, je travaillais pour des associations d'auteurs. Et finalement, évaluer le travail d'autres, ça m'a beaucoup appris à améliorer ma propre écriture. Ça, j'en suis persuadée.
Toi, Yacine ?
Oui, tout le temps, que ce soit dans des commissions, que ce soit des lectures amicales, mais pour un retour poussé, que ce soit en vue de coécriture, ou quand on arrive à partir d'une première version, il faut déjà avoir une sorte d'expertise à amener. Donc oui, non, c'est super important. Et effectivement, comme dit Nathalie, c'est aussi comme ça qu'on se forme, qu'on aiguise son savoir-faire, donc c'est essentiel.
Du coup, Yves, avons-nous intérêt donc à en fait, bien évaluer un scénario ?
Ben, ce n'est pas une nécessité pour tout le monde, c'est une nécessité pour les gens qui ont un pouvoir de momentané de vie ou de mort sur les projets qu'on leur fait lire. Les gens qui lisent dans les commissions, à l'avance sur recette, dans les boîtes de prod, etc. Ou les ateliers d'écriture, ou les script docteurs. C'est une activité humaine. Comme toutes les activités humaines, elle peut s'apprendre, elle comporte des règles, et elle nécessite des compétences. C'est une activité humaine que tout le monde n'est pas capable de mener correctement. Et, moi, si vous me demandez de conduire une voiture automobile sur un circuit au Mans, je me tue. Je ne suis pas capable, j'ai pas les compétences. Bon, il y a des gens qui... c'est une activité qui met en jeu trois langages. Le langage naturel, il suffit de savoir lire. Si vous n'êtes pas analphabète, vous savez lire un scénario. Mais ça met aussi deux autres langages en jeu. Et ces deux autres langages sont rarement maîtrisés par beaucoup de lecteurs de scénarios. Donc j'ai senti ce problème-là très très vite en rentrant en France. Et donc très vite, quand, dans la dramaturgie, il y a eu cette annexe qui faisait 400 pages sur l'évaluation d'une pièce ou d'un scénario. Et puis j'ai voulu le développer, c'est devenu évaluer un scénario.
Surtout que les lecteurs de scénarios ont souvent une influence sur le destin du scénario qu'ils lisent. Donc c'est d'autant plus important de les sensibiliser à comment appréhender cet exercice qui n'est pas simple, mine de rien. On peut se dire c'est simple, il suffit de lire et donner son avis. Mais on peut aller beaucoup plus loin que ça et c'est ce qu'on découvre dans le livre justement, qui donne des outils aussi pour construire son analyse et la rendre la plus digeste possible pour l'auteur qu'on a en face de soi.
L'outil le plus précieux, c'est une valeur cardinale qui s'appelle l'authenticité. L'authenticité, c'est pas l'inculture, c'est pas l'objectivité et c'est pas la sincérité. C'est encore autre chose. L'authenticité, c'est être en accord avec son ressenti profond, avec son moi profond. Voilà. C'est-à-dire, c'est recevoir. Mais ça marche dans tous les domaines, dans tous les arts. Hein. Et même dans la vie en général, c'est recevoir le scénario sans a priori, voilà, sans arrière-pensée, sans se dire ah ben, c'est comme c'est signé machin, ça va forcément être merdique ou génial ou voilà. Ça manque gravement l'authenticité.
J'ai dû lire une fois le scénario d'un de mes profs. Et ça a été une expérience douloureuse.
C'est violent ça, en général.
Ça, c'est violent.
Mais on peut être authentique, je disais que ce n'est pas l'inculture, on peut être hyper cultivé, on peut savoir d'où ça vient et être authentique. Alors ça demande un effort, mais c'est possible. Je crois que je parle d'un... je ne sais plus si je parle de 8 femmes. Je me souviens qu'après avoir vu un paquet de films réalisés par Ozon, j'avais un gros a priori quand j'ai abordé 8 femmes. Et puis, je me suis dit, alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais le voir dans mon bunker, un fusil à la main, et puis j'attends la moindre occasion pour dire ah, gna gna? Ou est-ce que je me laisse aller? Et puis voilà, je lui donne crédit. Bon, j'ai pas aimé les précédents, mais pourquoi pas celui-là? Ou sinon, c'est pas la peine, je perds 2 heures de mon temps, de ma vie. J'ai réussi à être authentique, alors que je savais d'où ça venait, etc. Tu vois. Et je me suis régalé. Et ben, j'étais enchanté. Doublement enchanté, d'abord parce que j'avais passé un bon moment, et parce que j'avais réussi à être authentique. Donc on peut savoir d'où ça vient, on peut avoir même une certaine culture, et être authentique, c'est possible. Pas besoin d'être un débile mental pour être authentique.
Alors, à la lecture de tes livres, Yves, il y a quelque chose qui revient assez régulièrement, c'est le fait que certains cinéastes font passer le récit pour quelque chose de négligeable face aux images. Est-ce que c'est un peu ton combat personnel ?
Oh, c'est pas un combat, c'est juste que j'ai l'impression que, de même qu'il y a des idiots utiles de l'islamisme ou du stalinisme ou du maoïsme, il y a des idiots utiles de la politique des auteurs. Des gens qui sont fixés sur cette politique qui date pas de la Nouvelle Vague, mais qui date des années 20, de Théodore Adorno, Elifor et compagnie, comme d'autres sont fixés au stade anal, et donc c'est un peu triste, quoi, ça fait beaucoup de tort. Vous savez que je comprends d'où ça vient, c'est historique, en 1920, Elifor, qui était un critique d'art, célèbre critique d'art, et quelques autres, Adorno et d'autres, décrètent que le cinéma est un art, d'accord, avec un grand A, comme les beaux-arts, n'est-ce pas? Et je leur donne raison, hein, c'est un art. Comme la peinture, comme la musique, comme le roman. Et à partir du moment où c'est un art, il faut un artiste. Et de préférence tout seul, comme le roman, comme la musique, comme la peinture. Voilà. Les tournesols, il y a un seul auteur, c'est Van Gogh. Il n'y en a pas 40 000. Bon. Manque de peau, le cinéma, c'est un art de collaboration. Voilà. Et ça, vous pouvez, les faits sont têtus. Vous pouvez dire tout ce que vous voudrez, c'est un art de collaboration. Et je dis bien de collaboration, pas collectif. De collaboration, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plusieurs auteurs. Contrairement à la peinture, contrairement au roman, contrairement à la musique. Il y a plusieurs auteurs, voilà. Je suis désolé, ça défrise beaucoup, mais c'est comme ça. Et c'est la loi. Ce que je viens de vous dire, c'est, à mon avis, une réalité artistique et humaine. Mais c'est aussi une réalité légale. Si vous ouvrez le code de la propriété intellectuelle, qui est une loi française qui date des années 50, je crois, il y a marqué, est considéré, je vous le cite quasiment de mémoire, est considéré comme auteur d'une œuvre audiovisuelle créée en collaboration, et il y a la liste, le dialoguiste, le scénariste, l'auteur du roman si c'est une adaptation, le réalisateur et le compositeur. Voilà, c'est comme ça. On peut dire qu'il y a des lois qui méritent d'être modifiées, hein. Moi, je suis déjà allé voir mon député pour lui demander de changer une loi, ce qu'il n'a pas fait d'ailleurs. Mais, mais les cinéastes, je ne sais pas, le bureau de la SACD considère que, ou du CNC considère que le code de la propriété intellectuelle n'est pas juste, qu'on demande à ce qu'il soit changé. Mais pour l'instant, la loi nous dit que le cinéma et la télévision sont des arts de collaboration, c'est-à-dire qu'une œuvre, un téléfilm, une série, un film, ont plusieurs auteurs. Voilà, c'est comme ça. Donc vous n'avez pas le droit de dire un air de famille, c'est un film de Cédric Clapiche. C'est illégal, c'est humainement dégueulasse et c'est artistiquement faux. Vous avez le droit de dire un air de famille est un film réalisé par Cédric Clapiche ou un air de famille est un film de Cédric Clapiche, Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri et Philippe Heidel, le compositeur. Voilà, c'est la loi.
Et pourtant, des un film deux, il y en a à l'appel
partout,
chaque semaine.
Partout, dans les journaux, partout.
Sur les affiches.
Et sur les affiches, et bien sûr. Ouais.
Yves, on te retrouve en ce moment sur la chaîne YouTube du Clown et l'Enfant dans des pastilles que tu animes, qui ça s'appelle Hats Off to the Screenwriter. Est-ce que je le dis bien?
Non.
Non.
T'as oublié le S à la fin.
Pardon. Hats Off to the Screenwriters, parce qu'il y en a plusieurs, tout à fait. Tu peux nous en parler un petit peu? Pourquoi l'idée? Pourquoi tu fais ça?
C'est une idée que j'ai eue avec avec Jean-Pierre Moreau, qui était producteur d'émissions de flux, qui produisait Le Grand Journal à une époque, pour Canal+, il y a 5-6 ans, je ne sais plus, et je ne sais plus comment on en a parlé, comment on est venu à en parler. Il m'a proposé de faire ça, et on a fait 3 pilotes en français, et ça s'appelait « Chapeau les scénaristes ». Et on a fait le tour de tous les diffuseurs possibles de France, et ils ont tous dit non. Arte, France 5, Canal, Ciné-Cinéma, Orange, France 3, tout le monde a dit non. Bon, ok. Et puis arrive Internet, YouTube, etc. Et j'ai eu envie de le reprendre. Et puis, cette fois-ci, je l'ai fait en anglais. Voilà. Mais c'est sous-titré en français.
Ouais, c'est chouette. C'est très... Je ne sais pas si vous avez vu Yacine,
oui.
Nathalie.
Oui, absolument.
Oui, ça reprend des idées, des points de dramaturgie, et ça les illustre avec des exemples. Souvent des films français, d'ailleurs.
Oh, y a des films français, il y a de tout. Là, je m'en prépare un, parce qu'il y en a d'autres de prévus, avec un film chinois. Oui, il y a de tout. En fait, mon drame avec la dramaturgie, c'est que je parle d'un art qui est quand même essentiellement fait pour être vu. Bon, il y a la dramaturgie radiophonique, mais... Globalement, la bande dessinée, le théâtre, le cinéma, la télévision sont des arts de l'image. Et le drame de la dramaturgie, c'est que je les décris, ces images, et je les montre pas. Alors, à un moment, je me disais, je devrais le vendre avec une collection de DVD, où à chaque fois que je donne un exemple, bing, je mets l'extrait dans le DVD. Bon, j'y ai pensé il y a 15 ans, et puis... c'était pour des raisons de droit totalement inenvisageables. Et maintenant, y a YouTube, et puis il y a cette loi qui s'appelle...
Droit de citation.
Droit de citation, et qui permet de montrer des petits extraits sans devoir payer ou sans être pénalisé. Et donc, je peux faire ça maintenant. Alors, j'illustrerai pas les 1000 exemples de la dramaturgie, mais bon.
C'est ton combat, du coup.
Oui, il y a de quoi faire.
Il y a de quoi faire, oui.
C'est une quatrième vie, là.
Pour clôturer juste cette partie sur les livres et notamment la dramaturgie, j'aimerais bien que tu nous lises, s'il te plaît, juste le petit préambule sur ce premier jeu, qui est très parlant.
Ah bon, alors c'est donc le préambule du premier jet de la dramaturgie qui fait 8 pages et demie, qui est polycopié, enfin non, qui est imprimé avec une imprimante matricielle à aiguille. Là, vous êtes trop jeune, vous n'avez pas connu ça. Préambule. Toutes les règles, tous les outils qui sont présentés ci-après valent pour n'importe quelle œuvre dramatique, quelle que soit sa durée, 2 minutes ou 2 heures. Bon, ça va, c'est pas trop compromettant.
C'est un bon début. Alors, continuons de parler de la dramaturgie, mais la dramaturgie en général.
La vraie.
Déjà, c'est quoi la dramaturgie? Quelqu'un aurait une définition, ou sa définition peut-être?
Ou chacun la vôtre?
Chacun la sienne. Nathalie réfléchit.
Moi, je dirais que c'est justement une manière d'organiser toute cette énergie créatrice nécessaire pour donner naissance à un film, à une pièce, à un récit structuré.
C'est très joli,
ça me va.
C'est pas mal.
Yacine, je crois qu'il dort encore. Il finit sa nuit.
Je serais très contente de lire la définition du dictionnaire parce que j'ai pas la définition exacte en tête. Je serais curieux de la connaître.
Je pense que ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire la représentation d'une action humaine. Drama, ça veut dire action en grec, je crois. Donc c'est déjà ça. Et puis ensuite, c'est toutes les techniques qui permettent ça, qui permettent de représenter une action humaine. Et tout ça, c'est compatible avec ce que vient de dire Nathalie.
Est-ce que l'un d'entre vous connaît un peu l'histoire de la dramaturgie? Tu parlais d'Aristote tout à l'heure, Yves. Est-ce que c'est lui qui a posé les bases déjà de la dramaturgie?
Oui, mais moi je pense ardemment que la dramaturgie préexiste au théâtre. Donc, d'ailleurs, on le voit en ce moment, il y a un feuilleton Pénélope Fillon qui est fabuleux.
Il n'y a pas que celui-là.
Avec des rebondissements, des coups de théâtre. Et puis, il y a un mystère aussi dont on attend l'éclaircissement. Est-ce qu'il y a eu un emploi fictif ou pas? Enfin, bref. Il y a du suspense, c'est génial. Et la vie, les infos, c'est bourré de dramaturgie.
Donc, j'imagine qu'elle est née avec le langage, la dramaturgie, puisque à partir du moment où il a fallu relater un événement,
donc elle est en l'homme,
ouais. Ça nécessite quand même de structurer un minimum la chose.
Avant le théâtre, il y avait les rituels religieux, où les prêtres... de toutes sortes, hein, indiens, chinois, occidentaux, africains, représentaient les fonctions naturelles, la germination, le soleil, enfin bon, etc. Et il y avait déjà de la dramaturgie là-dedans. Mais d'ailleurs, quand vous regardez un documentaire animalier, vous voyez des petites tortues qui éclosent, qui naissent. Vous voyez, je suis meilleur en dramaturgie qu'en littérature. Qui naissent au sommet de la plage et qui descendent laborieusement toute la plage sur le sable pour rentrer dans l'eau, et que les coyotes, les goélands, tous les prédateurs en profitent pour les croquer. Excusez-moi, mais il y a de la dramaturgie.
Mais que de conflits sur cette plage.
Il y a du conflit, il y a du suspense.
C'est vrai.
Ouais. Voilà. Et ça, c'était même avant le langage. C'était dès que la vie apparaît, il y a de la dramaturgie.
Non, je crois que. Ouais, non. Après, bon, là, c'est plutôt par déduction et tout ça, et presque par souvenir. Mais je pense que dans la dramaturgie, il y a énormément cette notion de tout simplement d'un récit en trois temps. Début, milieu, fin, qui est presque la forme naturelle du récit ou de l'expression de la pensée. Et il y a les notions d'unité aussi, les fameuses unités d'Aristote, etc. Voilà, c'est comment un récit en trois temps permet de communiquer une idée ou de suivre un trajet en particulier ou de répondre à une question dramatique. Voilà, moi, c'est presque par définition, je me fabrique ma propre définition de la dramaturgie.
Très bien.
Tu as le droit aussi.
Quand on lit ou quand on s'intéresse à la dramaturgie, on se rend compte qu'il y a un vrai jeu qui se construit entre l'auteur et le spectateur. C'est comme si les deux étaient indissociables. Pourquoi, finalement ? Pourquoi ça marche comme ça ? Je suis désolé avec mes questions.
Questions philosophiques.
Parce que je pense que quand on écrit un récit, que ce soit d'ailleurs un roman ou un récit destiné à être mis en image, on a quand même envie de le partager. De le partager avec une audience ou un lecteur. Donc à partir de là, je pense que même si l'idée initiale est peut-être là pour nous faire plaisir à nous, je pense que c'est très difficile, en tout cas très dangereux, de se lancer dans le processus de narration en oubliant que justement, on va livrer ce récit pour faire plaisir, pour susciter des émotions, pour surprendre, pour faire pleurer, j'en sais rien, faire rire une audience. Donc à partir de là, on est obligé aussi de mettre en œuvre des mécanismes pour pouvoir susciter aussi ces réactions chez le destinataire de ce récit.
Je ne sais pas vous, mais l'un de mes plus grands plaisirs, quand je disais tout à l'heure que j'adorais « Il était une fois », que j'adorais qu'on me raconte une histoire, l'un de mes plus grands plaisirs quand on me raconte une histoire, c'est de m'identifier à un personnage. Je n'ai pas analysé pourquoi, je trouve ça aussi jouissif, mais je sais que quand je n'ai pas ça, parce qu'il y a trop de supports d'identification possibles, ou parce qu'il n'y a pas assez de conflits, ou enfin pour diverses raisons techniques, quand il n'y a pas d'identification. Alors si, ça peut être ça, c'est parce que je sens que je ne participe pas, je sens même peut-être que l'auteur, je l'emmerde, quoi. Tout juste, il ne me dit pas, tiens, assieds-toi dans ton coin et fous-moi la paix, laisse-moi faire ma tambouille tranquille.
Paye ta place d'abord.
Oui, après avoir bien payé ta place. Il ne me demande pas de participer, il n'y a pas d'échange en fait, or, un dramaturgie, c'est du tango, ça joue à deux, s'il n'y a pas... avec le protagoniste comme intermédiaire, mais c'est bien entre, comme dans tous les arts, entre l'auteur et le récepteur.
Yacine, toi tu as écrit et réalisé un documentaire sur Jean Oranche, qui s'appelle Jean Oranche, écrivain de cinéma, mais il n'y avait pas vraiment de dramaturgie, du moins l'ouvrage à l'époque. Est-ce que tu sais un petit peu comment il travaillait ?
Oui, bien sûr, comme disait Yves, tous les...
Pour ceux qui... Est-ce que tu peux rappeler un peu ses œuvres ?
Ah oui, Jean Oranche, grand scénariste français des années 40 à 80. Il a travaillé avec énormément de gens. Rien que les références, Hôtel du Nord, L'Auberge Rouge, Notre-Dame de Paris, il a traversé de Paris, Les Quatre Premiers Taverniers, Jeux Interdits, enfin voilà. À peu près une centaine de films tournés. À l'époque, on disait dans les années 50, le premier français à avoir eu un Oscar, c'était pour Jeux Interdits à l'époque, et qui est vraiment structurant dans l'histoire du scénario à la française, parce qu'il a été un des premiers scénaristes stars avec Pierre Bost, Et il a été pris pour cible par Truffaut dans le fameux article « Une certaine tendance du cinéma français en 1954 » contre le règne de ses auteurs stars comme Janson, Spack, Orange. Mais Orange était vraiment la tête de Turc. C'est-à-dire que quand on regarde l'article, il y a sa photo. Il y a sa photo en gros. Et puis son nom revient énormément. Et dans le duo Orange et Bost, il accuse un peu Bost d'être aux ordres d'Orange et d'être... que Orange est vraiment celui qui a perverti le duo et tout ça. Donc voilà, vraiment personnalité structurante dans l'histoire du scénario à la française. Et ce qui est intéressant, c'est la longévité de sa carrière, puisqu'à partir de 72, il commence à travailler avec Tavernier. Ils font 4 films ensemble, il a 3 Césars, il retravaille avec d'autres gens. Et après le décès de Pierre Bost, son écriture se libère un peu. C'est quelqu'un qui vient du surréalisme à la base. Et donc, il a une sorte de remontée de sa jeunesse surréaliste dans ses dernières œuvres. Donc, c'est vraiment une œuvre qui a été fascinante à explorer avec mon co-auteur Alexandre Hilaire. Et ce qui est intéressant avec Jean Orange, c'est qu'il est né en même temps que le cinéma, à peu de choses près. Le cinéma, donc, c'est 1995. Jean Orange, c'est 1903. Donc, c'est vraiment une génération à laquelle dont je me sens très proche à ce niveau-là, qui, par définition, n'a pas pu être cinéphile. Voilà. Bien entendu, il a grandi avec le cinéma, il était fan de Buster Keaton, il voulait devenir gagman. Son premier envoi de scénario, c'était à Buster Keaton. Il proposait des gags. Puis ensuite, il a été repéré par Cocteau et tout ça. Mais du coup, par définition, ces exemples, ces modèles ne pouvaient pas être le cinéma. Donc ça ne pouvait pas être un cinéma qui se nourrit de cinéma. Et la plupart du temps, il se nourrissait de dramaturgie. Donc de théâtre et de littérature. C'était un véritable fou de littérature. En général, quand il avait une idée, apparemment, hein, c'est selon les témoignages de chacun, Alain Rioux, Tavernier, etc., c'était « Ah oui, c'est comme dans Le Rouge et le Noir, quand Julien fait ceci, etc. » Et du coup, par exemple, ce que Yves disait sur Weber, c'est que c'est des gens qui ont une telle culture, une telle culture classique, un tel savoir-faire, que malgré tout, ça irrigue leur façon de penser. Et voilà, Orange n'avait pas lu Sitchfield, Orange n'avait pas lu la dramaturgie, mais quand on lit son travail ou quand on lit ses entretiens, il s'était forgé ses propres règles du récit à partir de ce qu'il avait pu aimer. Et il a fini sans jamais verser dans les généralités ou dans les principes, mais il a fini par forcément se créer tout son nuage de principes et de questionnements qu'il guidait dans l'écriture d'un scénario. Et c'est pour ça que c'est fascinant, parce que du coup c'est une théorie qui se crée après la pratique. Et ça a vraiment été fascinant en lisant ses textes. Notamment, il a écrit beaucoup d'adaptations littéraires. Donc comment trouver des pivots dramatiques, comment transformer Le Rouge et le Noir, La Traversée de Paris, etc., à plein de niveaux, comment transformer un matériel littéraire en fiction dramatique, entre guillemets. Il s'est trouvé, entre guillemets, soit ses recettes, soit ses repères, et c'est vraiment fascinant.
Maintenant, il faut rajouter qu'en 1920, il y avait déjà la poétique d'Aristote, il y avait l'art poétique de Boileau, il y avait... en fait, d'ailleurs, c'est assez fascinant quand on s'intéresse aux poétiques, en fait, c'est-à-dire à ces traités sur l'art du théâtre. On se rend compte que beaucoup de dramaturges, même Aristote n'a jamais écrit une pièce de théâtre, c'était un philosophe, mais et Boileau non plus, je crois pas. Mais Molière a écrit sur son art, il a même fait une pièce, deux pièces, L'impromptu de Versailles et La critique de l'école des femmes, sur son art. Corneille, Racine ont écrit sur leur art. Quand on lit leur préface... Alors bien sûr, ils ont plus écrit de pièces que de traités et de théories, mais ils ont écrit sur leur activité. Le premier placet du Tartuffe parle de la comédie, la préface de Bérénice de Racine parle de théâtre. Diderot, Victor Hugo, Arthur Miller a écrit, immense dramaturge américain, a écrit des textes passionnants sur le théâtre. Et Georges Bernard Shaw, c'est probablement le plus bel exemple. Moi, j'ai l'intégrale de Georges Bernard Shaw, et le bouquin de ses préfaces est quasiment aussi épais que le bouquin de ses pièces. Et c'est passionnant. Donc peut-être que Orange avait... Alors en effet, j'aime beaucoup cette notion qu'il ne pouvait pas être cinéphile. Je trouve ça très joli. Mais en revanche, il pouvait être théâtrophile, il pouvait avoir lu Boileau. Boileau, moi je recommande, hein, Aristote et Boileau, c'est... C'est fascinant d'ailleurs de voir que Aristote, c'est quoi, 370 avant Jésus-Christ, chose comme ça, je crois, il parle déjà du spectaculaire. Il dit déjà que le spectaculaire, c'est un peu cheap et que ça vaut pas une vraie construction narrative. Il parle de trucs qui sont encore d'actualité, c'est fascinant.
Et qui sont has-been depuis plus de 2000 ans.
C'est super. Oui, bah, enfin, on va dire ça au studio hollywoodien, parce que relisez Aristote.
Oui, Yacine.
Et juste pour rebondir, c'est vrai qu'en France, on a quand même une chance dans notre histoire, qui est cette grande vague de l'art dit classique, notamment dans le théâtre, avec les trois unités, les trois actes, la fameuse phrase de Boileau, quand un jour en un lieu, un seul fait accompli, tiennent jusqu'à la fin le théâtre rempli, qui sont vraiment des...
Tu connais bien tes classiques, hein.
Ouh, grand fan de Molière. Non, et qui ont aussi énormément structuré énormément d'œuvres classiques, par définition. Et voilà, et je pense que ça irrigue aussi notre tradition de pensée et une certaine façon, pour certaines personnes, jusqu'à la politique des auteurs, une certaine façon de concevoir le récit. En parlant voilà, des oranges et toute cette première vague d'auteurs de cinéma.
Est-ce qu'il y a une différence entre la dramaturgie et la structure ?
Bah oui, la structure, c'est une partie seulement de la dramaturgie. Il y a une différence aussi entre la structure et la construction. Moi, je dirais que la dramaturgie, c'est plus synonyme de construction. Construction, c'est l'ensemble. C'est construire les personnages, construire la structure, tout, jusqu'au dialogue. La structure, bah, c'est la structure, quoi. C'est... les trois actes, début, milieu, fin, etc.
C'est immuable, c'est début, milieu, fin ?
Sauf quand on met la fin au début et le début à la fin, mais quand on fait ce qu'on appelle de la déconstruction. Moi, sur la déconstruction, je suis très partagé. Je trouve que, d'abord, avant de déconstruire, il faut avoir construit. Il faut avoir quelque chose à déconstruire, quoi. Bon, donc, il faut construire quelque chose. Et puis, parfois, je trouve que c'est gratuit. Parfois, je trouve ça totalement légitime. Dans Memento, par exemple, aller à l'envers, c'est archi légitime. Quand on raconte l'histoire d'un type qui a une perte de mémoire immédiate, je trouve que c'est d'une intelligence folle. Il y a d'autres exemples où ça me paraît moins légitime. Ce qui est fascinant, c'est un film comme 21 grammes, écrit par Guillermo Arriaga, qui est vraiment le film le plus déconstruit du monde, à mon avis. Imaginez, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on prend 60 scènes dans l'ordre, toute une histoire, 60 scènes. En gros, il y a un accident de voiture qui affecte trois personnes, le chauffard, la veuve de la victime, et puis le type qui va se faire transplanter l'un des organes de la victime. Ça, c'est l'incident déclencheur. Et puis, on va suivre ces trois personnes. Bon, donc vous avez un récit, dans l'ordre, on va dire 60 scènes, par exemple. Et Arriaga, qu'est-ce qu'il fait ? Il découpe chacune de ces scènes en 5 morceaux, on va dire, à peu près. Ou 6, ou 7, ou 8, je ne sais plus, ou 3. Bon, donc il se retrouve avec 300 morceaux. Il les met dans un chapeau, il mélange, et il tire au sort. Et il dit, voilà, alors je tire. Donc j'ai le bout de la scène 32. Allez, je mets en 1. Et je tire une autre scène. Là, j'ai le bout de la scène 3. Ah, le bout 3B. Je mets en 2, etc. etc. Et de ça donne un puzzle totalement éclaté. C'est un exercice à voir, c'est un exercice intellectuel. Bon, il faut être en forme. Hein, faut pas,
c'est ça. C'est le problème des films intellectuels comme ça. Il faut être en forme.
Il faut quand même être bon, dans les bonnes conditions. Mais c'est une expérience unique, passionnante. Et alors, ce qui est fabuleux, c'est que si on regarde bien, l'essentiel de l'incident déclencheur se trouve au bout de 15 minutes de film, et l'essentiel du climax se trouve à 5 minutes de la fin. Donc, génial. En fait, si on regarde bien, même 21 grammes, qui est le truc le plus puzzle au monde, je vais t'exploser façon puzzle, hein, eh bien, il est quand même structuré en trois actes, avec un incident déclencheur, un premier acte, deuxième acte, un climax et un troisième acte.
Donc dur d'y échapper. Hein.
Alors, non, si, on aurait pu y échapper. Honnêtement, Arriaga aurait très bien pu faire ce que je viens de décrire, parce que je pense qu'en fait, il a un petit peu construit, il a mis un peu d'hémisphère gauche dans ses giclées de sang. Mais c'est allusion à... Oui, parce que... C'est allusion à un mot d'un journaliste sportif américain, un mot qui est très connu aux États-Unis, un type qui s'appelait Red Smith et qui disait « écrire c'est facile ». Donc là, on est dans les années 50, hein, à peu près, je crois. « Écrire c'est facile, il suffit de s'asseoir à sa machine et de s'ouvrir une veine. » C'est joli. Sauf que moi, je dis à M. Red Smith, à mon avis, ça ne suffit pas. Il faut aussi canaliser les giclées de sang. On ne peut pas se contenter d'avoir des taches partout.
Enfin, puis après, il faut nettoyer.
Il faut nettoyer.
Plus sensé.
Non, il faut nettoyer. Certains endroits, on laisse. D'autres, coaguler. D'autres, on nettoie. Mais bon, on peut imaginer. Arriaga aurait très bien pu... je pense pas qu'il ait écrit avec le chapeau, mais il aurait très bien pu faire ça. Se retrouver avec 300 ou 350 bouts de scène dans un désordre total, absolu, mais à mon avis, il nous aurait décroché. Et il a dû sentir que, voilà, si on voulait suivre un petit peu quand même, non seulement il fallait qu'on soit en forme, mais il fallait que lui fasse un petit effort, peut-être, pour mettre l'incident déclencheur au début et le climax à la fin.
Alors, on parle de climax, d'incident déclencheur, de
technique.
De technique, on a parlé de règles aussi, de ficelles. Vous, Yacine, Nathalie, est-ce que c'est important pour vous de respecter des règles, d'avoir recours à certaines ficelles ?
Oui. Ben, c'est vrai que, ben, comme je disais tout à l'heure, moi, au fil des ans, je me suis quand même fait ma petite cuisine perso, même si je suis... C'est pas non plus... elle n'est pas figée dans le marbre. C'est vrai qu'elle va évoluer aussi en fonction de avec qui je collabore. Mais effectivement, je me rends compte que oui, c'est même une... Mon cerveau s'est organisé, je pense, d'une certaine manière au fil des ans, ce qui fait que peu ou prou, ça se passe de la même façon, je pense, d'un récit à un autre, et même finalement d'un support à un autre, puisque j'écris aussi des romans, et je me suis rendu compte que l'écriture de scénarios avait quand même pas mal fait évoluer ma manière d'écrire aussi d'autres textes, des textes un peu plus littéraires, justement dans la structure, même dans la genèse, finalement, dans les prémices des histoires.
Les fondations.
Dans les fondations, voilà. Et justement, ces fondations, moi, c'est vraiment l'étape qui prend le plus de temps, en ce qui me concerne, que je ne zapperai jamais, quoi. C'est vraiment...
Yves aussi, hein, tu confirmes ça dans ton ouvrage, que c'est un moment qui prend du temps, il faut prendre le temps de le faire, quitte à laisser un peu reposer.
Oui, bien sûr, les fondations, telles que je les propose, ça prend trois pages. Trois pages, la secrétaire du producteur, elle tape ça en 10 minutes, hein. Mais ça peut à créer, à réécrire. Il y a une autre citation de Boileau que j'aime beaucoup, c'est...
On va vous laisser tous les deux, du coup.
Ouais, ouais. On va se balancer, on va faire un battle.
Un clash de citations.
Oh, dis, oh, hâtez-vous lentement et sans perdre courage. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage.
Yacine, c'est à toi. Tu aimes Laurent, c'est le moment de te lâcher. Le mec est à toi.
Attends, excuse-moi Yacine. Et donc, sur les fondations,
tu la gardes.
Ces trois pages de fondations, qui sont tellement capitales, elles méritent d'être remises 20 fois sur le métier.
Oui, donc pour les outils de la dramaturgie ou pour les recettes, c'était la question précédente. Bah, en fait, c'est une sorte de boîte à outils. On met des choses au fil de son parcours artistique, on met des choses dedans. Il y a eu la dramaturgie. J'ai beaucoup aimé, même si je sais que voilà, il est accusé d'être rigide. J'aime beaucoup Sitfield, certaines éditions de Sitfield, notamment sur la construction de personnages. J'ai enfin compris à quoi pouvait servir une biographie de personnage avec Sitfield dans une de ses éditions. Voilà, petit à petit, on emmagasine des choses et le but, c'est de les intégrer et de plus trop y penser, mais d'avoir une sorte de boussole quand on écrit. Voilà, de se créer son savoir-faire et de savoir quand on sort volontairement des lignes, quand on est complètement paumé ou pas, c'est le plus important.
Et d'apprendre à savoir ce qui marche pour nous aussi. Tu parlais de tambouille... Voilà, petit à petit, on se forge sa propre méthode.
Mais ce qui peut être super utile quand on est scénariste en France et qu'on est au pays de la politique des auteurs et qu'on travaille avec des réalisateurs qui ne sont pas chargés d'être pourvoyeurs de récits.
Mais d'images.
Non, mais qui sont pourvoyeurs de propos, d'images, d'intentions, de poésie, de plein de choses, mais pas forcément de dramaturgie. C'est vraiment bien d'avoir intégré des règles et d'y croire. Pour pouvoir les transmettre et pour pouvoir ensuite cadrer le travail, ça c'est super important. Si on n'y croit pas soi-même et si on ne les maîtrise pas soi-même, on ne peut pas les transmettre à son co-auteur.
Très juste.
Et du coup, c'est super important d'avoir ces outils-là.
Alors, on parle de fondation, mais finalement, on n'a toujours pas dit de qu'est-ce que contiennent ces fondations. Du coup, on va aborder la technique pure. Alors, une fondation, ça tient déjà sur, a priori, un personnage. On va tous être d'accord là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler un peu du personnage ? Qu'est-ce que c'est qu'un personnage finalement ?
Un personnage, c'est un être fictif qui a un objectif. S'il n'y a pas d'objectif, c'est un ectoplasme. Alors après, des objectifs, il peut en avoir des conscients, des inconscients. Il peut avoir un besoin plus qu'un objectif, un besoin de se transformer, etc. Mais s'il n'a pas d'objectif, c'est juste une marionnette. Alors c'est un personnage, puisque c'est un être de fiction, mais c'est voilà, c'est un personnage en 2D, on va dire. Il y a, dans toute l'œuvre de Weber, moi je suis un grand admirateur de l'artisanat de Francis Weber. Maintenant, il y a des scénarios qu'il a écrits que je trouve moins réussis que d'autres. J'ai aussi des réserves. Et je trouve que ces personnages féminins sont souvent plats, faible. Francis, si tu m'entends,
j'espère.
Zappe cette partie-là. Et non, mais il le sait, j'en ai déjà parlé.
Et il peut écouter le podcast qu'on a fait le mois dernier sur l'écriture au féminin, justement.
Ah, ouais. Et il y a quand même, il y a deux personnages dans toute l'œuvre de Weber. Il y a vraiment des potiches. Hein. Franchement, elles s'appellent toutes Christine, mais certaines sont. Bon. Non, c'est vrai en plus.
Toutes les femmes s'appellent Christine.
Ouais, tous les protagonistes s'appellent Perrin ou Pignon, et toutes les femmes s'appellent Christine chez Weber. Mais il y en a deux qui sont formidables. Deux très 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 beaux personnages féminins chez Weber, et à mon avis les deux seuls. C'est dans Les Compères, le personnage joué par Annie Dupéret. Alors même si elle ne sert, enfin on ne la voit, elle n'existe plus exactement que dans le premier acte. Et elle a un objectif, qui est de retrouver son fils adolescent fugueur. C'est elle qui va manipuler Lucas et Pignon pour leur dire qu'ils sont le père de l'enfant et les pousser, parce que son mari n'a pas les épaules, et les pousser à aller le chercher. Et elle a du caractère, voilà, elle existe vraiment et elle a un objectif. Et le deuxième, encore plus beau personnage féminin chez Weber, c'est Christine, toujours, jouée par Miu Miu dans On aura tout vu. On aura tout vu, le protagoniste c'est Perrin, joué par Pierre Richard. Son objectif c'est de faire un film, un premier film. Et malheureusement, il a une histoire, une belle histoire romantique. Et le seul producteur qu'il a trouvé pour produire sa belle histoire romantique, c'est un type qui s'appelle Morlock, qui est joué par Jean-Pierre Marielle et qui est producteur de porno. Et dont la philosophie c'est 89 minutes de cul, une minute de psychologie. Donc on voit le niveau. Et Christine dit à François Perrin, dès le début, elle lui dit « Tu vas te perdre. T'as mis 3 mois à me dire que tu m'aimais. T'es un type sensible. Tu vas te perdre dans ce film-là. » Et elle a raison. C'est-à-dire qu'elle joue en plus le personnage de contradicteur raisonnable. C'est un personnage très, très important dans beaucoup d'œuvres. On lui donne raison. Et on attend que Perrin comprenne enfin sa douleur pour abandonner cette aventure hasardeuse. Si vous avez vu le film, je peux vous dire qu'elle paye de sa personne. Très très beau personnage.
Eh ben super, on regardera ça. Donc pour revenir sur la technique de la dramaturgie, on vient d'évoquer le personnage, donc il doit pas être un être qui doit être mu par quelque chose, je me trompe. Non, mu. Voilà, il doit être mu, à moi de faire des problèmes de grammaire.
C'est la vache.
Mu, c'est la vache. Le problème, c'est que si, c'est bien qu'il soit mu par quelque chose, et c'est encore mieux si le scénariste l'empêche d'atteindre ce qu'il veut. Alors comment ça se passe ? On utilise des obstacles, bien souvent, pour empêcher le personnage d'atteindre son objectif. Du coup, on parle de conflit. En quoi c'est important et pourquoi il faut en faire ? Nathalie.
Le conflit et l'obstacle sont nécessaires pour tout simplement pour qu'il se passe quelque chose. C'est vrai que l'histoire d'un personnage qui est très heureux, qui a tout ce qu'il veut et pour qui tout va bien, ça serait juste chiantissime à l'écran. Maintenant, en ce qui concerne justement cette dynamique comme ça d'objectifs et d'obstacles, moi je trouve que ce qui est vraiment très intéressant et qui n'est pas toujours le cas dans nombre de scénarios, c'est quand ça vient aussi de la caractérisation du personnage. C'est-à-dire quand c'est, comme disait Yves tout à l'heure, quand c'est un obstacle interne, quand ça répond à une faille, quand ça répond finalement à une mauvaise foi du personnage.
Obstacle interne, donc qui vient du personnage.
C'est-à-dire qu'en fait, il a en lui-même finalement des composantes qui l'empêchent d'atteindre cet objectif ou qui lui compliquent la tâche ou qui lui compliquent aussi ses relations avec les autres personnages de l'histoire.
Par exemple, je voudrais être président de la République. Bon, et puis les obstacles externes, c'est mes concurrents parce que j'ai d'autres gens qui veulent aussi être président, etc. Il y a, voilà, on crève mes pneus, enfin c'est des obstacles externes, c'est pas très intéressant. Mais si ma femme, je lui ai offert un emploi fictif, par exemple, là, on a un obstacle interne.
Pourquoi, c'est un pourquoi finalement c'est un obstacle interne parce qu'il se...
Parce qu'en fait, c'est un obstacle qui est généré par le protagoniste lui-même, qui vient directement ou indirectement du protagoniste lui-même. Et c'est pourquoi en fait c'est si passionnant à mon avis, c'est parce que dans la vie de tous les jours, on a beaucoup à faire à ces obstacles nous-mêmes, internes, ou d'origine interne. Et non seulement On vit des conflits dont on est à l'origine, qu'on a du fait de nos névroses, du fait de nos croyances, du fait de plein de choses. Et non seulement ça, mais c'est quasiment les seuls obstacles sur lesquels on a un peu de pouvoir. Et comme le récit a entre autres pour fonction de nous indiquer la voie pour grandir, nous montrer ce que Hamlet ou Phil Connors fait de son obstacle interne, ça peut peut-être nous aider, nous, spectateurs, avec nos propres obstacles internes. Voilà, je crois, l'intérêt.
Ça revient aussi à ce que tu disais tout à l'heure sur le personnage, c'est que ça doit être aussi un vecteur d'identification. Et
oui,
qu'effectivement, pour qu'on soit impliqué en tant que spectateur dans sa quête, effectivement, il faut qu'on soit aussi... qu'on se reconnaisse finalement dans ces failles et dans ces obstacles. Quand c'est externe, c'est toujours plus artificiel, en définitive, anecdotique. Mais c'est pas ça qu'on va retenir dans un film réussi. Quand on quitte la salle avec un film nous parle, c'est beaucoup plus pour des questions humaines finalement que des anecdotes du récit.
Oui, c'est pour ça que l'exemple de Tintin en Amérique m'avait tant marqué. Non, mais parce que c'est pris à l'extrême du pur obstacle externe, sans aucune caractérisation du personnage. C'est du pur mouvement, mais qui ne mène à rien et qui résonne absolument pas. C'est tout l'inverse de François Fillon qui est dans une contradiction interne extrêmement puissante à croire à fond à une politique de rigueur et qui est pris entre ses propres principes, ma famille et la nation, et qui tente de se trouver une ligne de conduite par rapport à ça. C'est pour ça que, en l'état, ce scandale, entre guillemets, il est fascinant. Ou, pour revenir à mon copain Molière, le misanthrope, c'est magnifique, parce que son principal obstacle pour aller vers la femme qu'il aime, c'est sa propre misanthropie. Et donc, j'aime une femme, mais elle aime les autres, et moi, j'aime pas les autres, et du coup, je passe d'un pied à l'autre pendant les cinq actes. Ça, c'est magnifique, parce que c'est une tempête sous un crâne, et d'un certain côté, tout ce qui résonne dans la pièce, c'est juste l'expression de ce conflit interne, donc c'est magnifique.
Alors, quand un personnage veut quelque chose, c'est bien qu'il soit motivé, ça s'appelle les enjeux. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Pourquoi c'est important que le personnage ait des enjeux? Vous avez 2 heures.
Il y a une interrogation.
Ouais, c'est vrai.
Parce que c'est ce qui rend aussi l'objectif fabuleux. Quoi. Si on ne sent pas à quel point c'est vital pour le personnage d'atteindre ce but, on perd aussi notre intérêt pour l'histoire, tout simplement.
Pourrait faire un film pour un truc qui
pour un truc complètement commun. Même si finalement cet objectif en tant que tel peut nous sembler dérisoire à nous, en tant qu'individu, si pour le personnage c'est vraiment une affaire de vie ou de mort, d'accomplissement, ça devient aussi important pour nous spectateurs. Ça crée un suspense, ça crée une urgence,
l'empathie.
Une empathie, effectivement, une émotion, même si à la base c'est ça. Je pense par exemple à Little Miss Sunshine où c'est assez marrant parce qu'en plus l'objectif en fait il est perdu d'avance. Cette petite fille effectivement qui s'embarque dans ce concours de beauté, on sait dès le départ qu'elle peut pas gagner. Sur aucune planète, elle ne correspond pas aux critères esthétiques, son numéro est bizarre, enfin bon. Donc on se dit, mais c'est quand même terrible, c'est une gamine qui part au casse-pipe, ça va ruiner sa vie, ça va l'anéantir psychologiquement, on va lui rire au nez. Et en fait, c'est ça qui est génial, quoi. C'est que, effectivement, elle va perdre, parce que c'est évident.
Dis pas tout.
Voilà. Mais ça se fait de façon...
Climax, c'est génial. Hein.
Elle va peut-être perdre.
Elle va peut-être perdre. En tout cas, c'est le parcours qui est intéressant, et c'est justement toute l'énergie qui est déployée aussi par son entourage pour l'accompagner dans ce truc dingue. C'est une leçon d'humanité incroyable.
Yves, est-ce que tu as un conseil pour montrer les enjeux? Tu en parles un peu dans la dramaturgie. C'est bien de savoir ce qui motive le personnage, mais après, la difficulté, c'est de le montrer.
Non, c'est pas tellement... Enfin, ça me paraît pas si difficile que ça. Si l'enjeu est pas clair, parce qu'il est, bah, y a des enjeux qui sont universels, quelqu'un à qui on vole sa bicyclette et ça lui sert à aller au boulot, il a pour objectif de retrouver sa bicyclette et il n'y a pas besoin d'expliquer...
Le voleur de bicyclette.
Pourquoi c'est si important. Mais quand c'est pas évident, oui, je suggère de faire carrément une scène d'enjeu. Dans Hats Off to the Screenwriters, je donne l'exemple de Lagan, je sais plus quel numéro c'est, les gens retrouveront, où il y a carrément 3 scènes d'enjeu, où ils expliquent bien l'importance de gagner ce match de cricket contre l'armée britannique. Comme le disait Nathalie, l'enjeu, c'est un facteur d'empathie, ça renforce l'identification. C'est marrant parce que j'ai évolué sur la question de l'enjeu. J'en parlais au début, donc il y a en 94, mais assez peu finalement. Enfin, je disais c'est important. Et plus ça va, plus je vois en plus que à quel point je m'ennuie quand il n'y a pas d'enjeu dans un récit, et plus j'insiste sur cette question-là. Et je trouve que c'est quasiment aussi important que le conflit ou des éléments comme ça.
Super.
On parlait aussi d'outils dramatiques tout à l'heure. Toi, Adrien, je sais que tu es... je subis que tu es fan du time lock.
Oui.
Il y a toujours une histoire de minutes et d'échéances. T'essayes toujours de caser des trucs. C'est ton outil préféré.
C'est mon outil préféré, oui.
Voilà.
Ah, l'urgence.
L'urgence, ouais. Ah ouais, ouais.
Pourquoi tu t'es allongé pour savoir... je prends 150 euros de l'heure, c'est...
c'est moi qui devrais encaisser.
Dès que je peux, j'en mets... Pourquoi ? Bonne question.
Mais moi, je peux te dire pourquoi.
Mais oui, je pense que tu as la réponse. Oui, oui.
Analyse en direct.
Il y a une probabilité que... Tu sais que quand les enfants sont élevés, souvent, ils reçoivent des injonctions parentales qui sont au nombre de 5, qui sont inconscientes et qui sont soit fort, soit parfait, fais des efforts, j'ai oublié la quatrième, et la dernière, c'est dépêche-toi. Et on se retrouve à l'âge adulte avec dans le crâne une ou deux de ces injonctions parentales, inconscientes. Et on essaye de s'y conformer. Si on a eu soit parfait pendant son enfance, on va être perfectionniste et on va faire chier tout le monde et soi-même aussi, etc. Mm-hmm. Et je parie que tu as eu dépêche-toi.
Il y a des chances.
Adrien, dépêche-toi.
Va à l'école. Non, non.
Dépêche-toi.
Non, pour le coup, le time lock, c'est un outil très efficace. Alors du coup, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, au final, parce que ça me sert beaucoup.
Je sais pas, est-ce que vous avez des outils un peu favoris comme ça, ou des choses que vous aimez beaucoup utiliser ? L'ironie dramatique, par exemple.
Ah, bah oui.
Voilà, ça c'est...
Bah, l'ironie dramatique, de toute façon, elle est vraiment intrinsèque à un récit. Hein, si c'est quand même très, 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 très nécessaire.
On peut passer à côté.
Ouais, on peut passer à côté, on peut faire beaucoup de mystères.
Mais c'est vrai, ben moi, alors c'est plus insidieux, mais je travaille beaucoup avec le sous-texte, en fait. J'aime beaucoup les scénarios. Enfin, c'est une forme d'ironie dramatique, hein, mais où finalement le spectateur comprend beaucoup mieux les failles et le fonctionnement des personnages que les autres personnages avec qui il s'agite. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu mon dada à moi, on va dire, ça serait ça.
J'ai pas d'outils particuliers, c'est plutôt des lubies ou des questions ou des choses auxquelles on tient. Par exemple, puisqu'on parle des personnages, plus le temps passe, plus je me dis que ce qui est important et ce qui va déterminer la trajectoire d'un personnage au cours du récit, c'est la manière dont il préexiste au récit et la manière dont il est censé poursuivre sa vie après. Et d'un certain côté, c'est comment un personnage est pris en tenaille entre deux hors-champs qu'on ne voit pas, et comment ça fait ressortir des choix drastiques chez lui, par exemple. Voilà. Mais c'est pas un outil au sens strict, c'est plutôt une manière d'orienter, par exemple, la discussion avec un réalisateur. Ou pareil, l'idée qu'un personnage, un bon personnage, est déjà porteur d'une contradiction très très forte, mais indépendamment du pitch ou du postulat, quoi. C'est-à-dire que Tutsi, c'est un homme qui s'habille en femme, mais c'est aussi un acteur qui a besoin de se cacher. Et du coup, voilà, il y a une contradiction qui est intéressante à explorer presque thématiquement. Un acteur qui veut se cacher, il va pas avoir envie de se cacher très longtemps. Et c'est voilà, des choses comme ça. Mais c'est aussi des questions pour éviter d'être dogmatique. Voilà, c'est pour éviter d'imposer des choses ou de croire avoir tout compris, puis ensuite dérouler sa science. Tiens, ça c'est intéressant. Par exemple, pour reparler de Jean Orange, quand il parlait de l'adaptation de L'horloger d'Everton de Simenon, qui est devenu L'horloger de Saint-Paul de Tavernier, il y a cette phrase magnifique. Il dit, voilà, dans L'horloger d'Everton, c'est un homme seul qui est seul. Moi, je voulais à tout prix, je disais à Bertrand Tavernier que je voulais montrer un homme seul qui vivait en groupe et comment on explore la solitude en groupe. Ça, c'est magnifique, voilà. C'est des choses, mais voilà, c'est pas forcément des principes généraux, mais c'est quand même des envies de récit, des envies de narration, des envies de montrer la nature intime du personnage via de l'action et via de l'image et tout ça. Donc ça, c'est super intéressant. Et toujours pour Jean Orange, par exemple, ça c'est autre chose, mais il dit, pour lui, le dialogue, c'est de l'image. Il ne sépare pas le son et l'image. Il dit, le dialogue, c'est de l'image, sous-entendu. Tant que c'est lié à une activité, tant que c'est lié à un contexte, etc., c'est jamais strictement bavard. Mais du coup, le versant, c'est qu'il ne faut pas déblatérer pour rien. Donc voilà, c'est des principes.
On voulait conclure ce podcast avec les petits trucs dramatiques à éviter. Tu en parles pas mal, Yves. Vous, c'est quoi les trucs que vous ne voulez plus voir, que vous ne voulez plus écrire? Je pense, bon, le plus évident, c'est le Deus Ex Machina, évidemment.
Non, mais ça mérite une bonne fessée d'office, quoi. C'est...
Et on revient à Tintin en Amérique, parce que l'un des problèmes de Tintin en Amérique, c'est ça, c'est finir une planche par un cliffhanger, et puis le résoudre par un Deus Ex Machina, parce qu'il était un fichu de trouver une solution... et qui ne préparait pas.
Moi, ce que j'aimerais vraiment ne plus voir, mais plus jamais, et notamment en télé, c'est des dialogues explicatifs.
Donc on est dans le montrer plutôt que dire.
Voilà, dans le montrer plutôt que dire, dans les personnages qui vont nous expliquer par le menu ce qu'ils ressentent ou tous les enjeux, plutôt que de faire l'effort de construire un récit qui nous le fasse comprendre par l'image.
Et ça, c'est quelque chose qui touche particulièrement la télévision.
Alors, oui, je pense que ça, c'est encore le grand mythe de la ménagère de moins de 50 ans qui serait un petit peu stupide et qu'il faudrait bien tout expliquer, des fois qu'elle fasse une pause pipi ou chocolat. Mais ça se retrouve aussi au cinéma, hein, c'est pas non plus...
Toi, Yacine.
Vraiment, je pense que tout est possible. Enfin, j'ai pas envie de me mettre de barrière. Il y a plein de choses qui nous agacent quand on est en train de les lire ou de les voir, mais dans l'absolu, j'ai envie de croire que tout est faisable si c'est par une personne qui est pertinente et intelligente et même consciente de ses propres limites. Je pense au Deus Ex Machina, par exemple, il y a une bande dessinée qui s'appelle Gotham Central, qui fonctionne de manière quasi systématique sur la notion du Deus Ex Machina, puisque c'est en fait une bande dessinée sur la vie des flics de la ville de Gotham City, donc la ville de Batman, et c'est une série vu du point de vue des flics, et donc c'est la chronique de gens complètement impuissants et complètement dépressifs, parce qu'ils savent que quelle que soit l'enquête qu'ils vont mener, Batman arrive à la fin pour leur voler la gloire ou pour les sauver. Et donc c'est la chronique et l'étude de cette impuissance et de la rancœur qu'elle suscite et tout ça. Et donc par définition, c'est quand les structures des épisodes sont pas très intéressantes, on sait que Batman va se pointer et les sauver, et c'est tout ce qui se passe à côté et les enjeux émotionnels donc, qui sont construits pour faire vivre l'histoire. Donc en soi, voilà, tout est possible. En soi, c'est vrai que moi aussi, j'aurais tendance à dire les Deus Ex Machina. Si la personne est consciente de ce qu'elle cherche avec l'intrigue ou le mécanisme en question, je pense qu'elle peut tout résoudre.
Et là, dans ce que tu dis, c'est pas le Deus Ex Machina qui est le noyau central de l'œuvre. C'est fait partie du concept du livre, en tout cas, enfin de la BD. C'est
oui, bien sûr. Ouais, voilà, ouais. C'est-à-dire que encore une fois, il y a des mécanismes de récit, et c'est la manière dont l'auteur, même de manière consciente, par exemple, là c'est presque une problématique de récit qui est portée par le personnage. Voilà,
oui, c'est ça.
Voilà. Et c'est là où ça devient par exemple super intéressant. Donc, ouais, non, il y a plein de formes, plein d'idées et le monde réserve plein de surprises.
C'est joli, moi je connaissais
c'est
pas.
C'est beau, ouais, ouais, ça donne envie.
Je vais me précipiter sur Gotham Central parce que c'est le Deus Ex Machina qui devient un obstacle maintenant.
Ouais.
Vachement bien.
Donc, voilà, donc c'est plus vraiment un Deus Ex Machina finalement.
Voilà.
Moi, j'ai une petite dent contre le mystère, mais j'ai pas encore. Il faut que je vois ça en thérapie, mais j'ai un problème. Peut-être qu'il y a un secret de famille chez moi ou quelque chose qui me ronge. Mais
chacun son truc.
J'aime pas le mystère, je déteste ça. Il y a deux, trois histoires de mystère, comme Music Box par exemple, ou 13, qui me conviennent, où je prends du plaisir, mais globalement, j'aime. Je préfère mille fois l'ironie dramatique ou la surprise au mystère. Voilà, je ne sais pas bien pourquoi, mais résultat des courses, les récits d'enquête m'ennuient profondément. Quasiment toutes les séries policières m'ennuient, sauf Columbo, où justement il n'y a pas de mystère mais de l'ironie dramatique.
Pourquoi ça t'ennuie ces récits d'enquête?
Alors ça m'ennuie en partie parce que je sais pourquoi, je ne sais pas l'origine psychologique, mais je sais, oui. D'un point de vue artisanal, le mystère, ça suscite une curiosité intellectuelle et non une curiosité émotionnelle. Et moi, je suis plus dans l'émotion, j'ai envie de m'identifier, j'ai pas envie... Alors, j'adore, par exemple, Agatha Christie, mais j'adore les lire, Agatha Christie, j'adore pas les voir. Les Whodunits, voilà, je préfère les lire. Je trouve que c'est un exercice un peu, une distraction presque mathématique, rigolote, mais c'est pas très émotionnel. Et puis la deuxième raison, c'est que, sauf, on boucle un peu la boucle là, avec l'exemple de l'épisode 9, saison 2 de The Walking Dead, mais la plupart du temps, la résolution des mystères est décevante. L'éclaircissement est pas surprenant, et bon, ah, c'était pour ça, ah, bon, ah, d'accord.
Oui, Lost, par exemple.
C'était, oui, alors Lost, c'est un pire exemple, mais... Ah, c'était lui l'assassin. Ah bon, ah ouais, bon, d'accord. Ouais. Et puis il y a une autre raison aussi, c'est que souvent dans les récits d'enquête, pas dans tous les mystères, mais dans les récits d'enquête, il y a très peu d'enjeux pour l'enquêteur. Dans Édipe Roi, il y a un immense enjeu pour Édipe, parce que c'est lui l'assassin, je ne suis pas en train de spoiler, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Édipe Roi, c'est dit dès le début. Hein, bon. C'est lui l'assassin qu'il recherche. Donc il y a une... pardon my French, il y a un putain d'enjeu dès le début. Bon. Mais dans Commissaire Maigret, ou les experts je suis désolé, il n'y a pas d'enjeu. Ils ont rien à gagner, rien à perdre. Enfin, rien à gagner. Non, ils n'ont rien à perdre s'ils ne découvrent pas qui est l'assassin. Mmh. Ça ne leur coûtera rien. Et c'est pour ça que je trouve Dragon Rouge plus intéressant que le premier film qui a été fait d'après le même roman, Sixième Sens. Parce que la famille de l'enquêteur, qui est jouée par Edward Norton, je crois, est en danger, est mise en danger par Hannibal Lecter. Et donc là, soudain, il y a de l'enjeu pour l'enquêteur. Ouais. Mais la plupart du temps, tous les commissaires de police vous diront qu'ils ne peuvent pas résoudre 100% des affaires. Donc s'ils ne résolvent pas une affaire, et ben, ils rentrent chez eux et ils retrouvent leur femme. Et voilà. D'ailleurs, vous remarquerez que dans certains récits d'enquête contemporains, dans les séries, justement pour paré à ce problème-là, il crée une sous-intrigue en parallèle dans Dr. House par exemple ou d'autres où là il y a un vrai enjeu perso alors que sur l'enquête il n'y en a pas.
Julie Lescaut aussi c'était ça.
Oh, alors immense exemple.
Oui. Non, mais on l'oublie des
historique.
Fois.
Historique.
Alors pour en revenir à la dramaturgie, c'est quelque chose quand on écrit des histoires qu'il vaut mieux bien sûr maîtriser et une question encore à double mais combien de temps ça prend ?
Une vie.
Ouais, je suis entièrement d'accord. On n'arrête jamais d'apprendre.
Une vie.
C'est ce que j'essayais de vous
faire
dire.
Voilà, on peut s'arrêter là-dessus.
Ben bon courage.
Il y a un truc que a dit Yacine tout à l'heure. Il a dit à propos des règles, je ne sais plus tes mots exacts, mais quelque chose comme sans trop s'en rendre compte ou quelque chose comme ça. Tu vois. Et moi, je suis très attaché à cette idée. J'explique à un moment, je crois que c'est dans les dernières éditions de la dramaturgie, je parle de cette expérience qu'on a tous faite d'acheter un lecteur de DVD, Blu-ray, et puis de se retrouver avec une télécommande avec 46 boutons. Certains sont à peu près intuitifs parce qu'on connaît les symboles, le carré, le triangle et tout, et puis d'autres, on comprend rien du tout, on ne sait pas à quoi ça correspond, et toutes les fonctions qu'il y a derrière. Parce que maintenant, avec... Bon. Et qu'est-ce qu'on fait au début ? On attrape le mode d'emploi, et on lit ligne par ligne, tel bouton permet ceci, tel truc, etc. Et on fait des essais, et tout, etc. Et puis, petit à petit, ça rentre. Ce qui était conscient devient inconscient. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec mon lecteur de Blu-ray, je peux taper sur les touches de la télécommande sans les yeux fermés. C'est-à-dire que ce qui était conscient au démarrage est devenu inconscient. Et cette expérience-là, on l'a tous faite dans tous les domaines. On l'a faite avec une raquette de tennis, on l'a faite en pâtisserie, en musique, dans la conduite automobile, dans tous les domaines. Et bien, ça marche aussi dans le récit. Et c'est pourquoi... Je défends l'idée que la connaissance consciente des règles, qui vient se loger dans l'hémisphère gauche, n'entrave pas du tout la spontanéité de la création, qui vient plutôt se loger dans l'hémisphère droit, parce que, en partie aussi parce qu'il y a un organe dans l'anatomie humaine qui s'appelle le corpus callosum, qui est extraordinaire. C'est mon organe préféré, qui se trouve juste un noyau d'axones qui se trouve entre les deux hémisphères et qui permet aux deux hémisphères de communiquer et de nourrir l'inconscient va nourrir le conscient et le conscient va nourrir l'inconscient.
Impeccable.
La vie, mon ami, la vie.
Sans pression, hein, à la cool.
Alors, on va gentiment conclure ce long podcast anniversaire. On va faire un dernier tour de table. On va commencer par toi, Yacine. T'as le droit au petit mot de la fin. Chacun a son petit mot de la fin. Et puis, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets?
Waouh, non, le mot de la fin.
Ouais, t'as le droit de réfléchir deux secondes.
C'est très, très. Ça fait vachement peur. On aurait pu parler de la dramaturgie à l'échelle d'une scène. Parce qu'une scène, en général, c'est toujours en réduction un peu les enjeux de tout le récit. Et ça résonne forcément avec le tout, quoi. Le tout, les parties, tout ça, ça aurait été bien. Mais pour le deuxième anniversaire, je serai là. En forme.
On fera peut-être un deuxième épisode, oui.
Ah oui, voilà. Bah, le sujet est vaste. Hein. On pourrait faire un podcast dédié à ça.
À la scène. Je suis...
La construction de scène, ça s'appelle.
Voilà, exactement.
On te réinvitera pour ça.
Je me lèverai aux aurores. Sinon, Twitter, Facebook, Google.
Google.
Voilà.
Le fameux Yacine Badet sur Google.
Voilà, le fameux Yacine.
Voilà.
Ça marche. Nathalie, un petit mot pour conclure.
Je suis très contente de constater qu'effectivement, en France, on est enfin en train de prendre justement l'apprentissage de la dramaturgie un petit peu plus au sérieux que quand moi j'ai débuté, il y a une quinzaine d'années maintenant. Effectivement, le métier de scénariste a tendance à se professionnaliser, donc ça c'est très très bien, ça ne peut que bénéficier à nos fictions.
Sur ton site, Nathalie, entre autres, tu parles de dramaturgie, que tu rabâches presque de manière régulière.
En fait, pour rebondir à ce que disait Yves tout à l'heure,
C'est pas pour rien que tu es ici aujourd'hui avec nous.
Effectivement, Scénario Buzz, c'est aussi un blog que j'ai créé à l'image de ce que j'aurais aimé trouver quand j'ai commencé dans le métier. Mais c'est aussi un blog sur lequel finalement je rebondis finalement à mes propres problématiques et apprentissages finalement en tant qu'auteur. Parce que c'est vrai que ça, de là naissent aussi des idées d'articles où je me dis, bah tiens. Je me pose telle ou telle question existentielle ou je bute sur tel ou tel sujet. Donc, ça peut-être intéresser aussi des lecteurs. Donc, effectivement, oui, ça, c'est vrai que j'ai toujours milité ardemment pour qu'on apprenne la dramaturgie et surtout pour qu'on l'apprenne sur la durée, comme disait Yves. Il y a un phénomène un petit peu inquiétant actuellement en France, c'est que on commence à avoir des séminaires d'écriture sur 3 jours avec de grands pontes de l'écriture, ce qui est une très bonne chose, mais on y envoie des lecteurs des chaînes ou des producteurs qui n'avaient qu'une très très vague notion de ce qu'était la dramaturgie avant et qui pensent avoir en 3 jours eu une espèce d'illumination et avoir tout compris sur l'écriture et du coup la maîtriser bien mieux que les gens dont c'est le métier. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que ce sont des lecteurs qui ont un droit de vie ou de mort sur les projets. Et je trouve que c'est quand même très, très, très inquiétant que ces décisions se prennent justement sur une lecture arbitraire. Et voilà. Donc, je milite aussi activement pour que la lecture de scénarios aussi soit enseignée sur la durée, avec beaucoup de... beaucoup d'assiduité et de soit nourri aussi par l'expérience. C'est vraiment
très
vital.
Ouais, ouais.
Et on te retrouve sur ton site.
Évidemment. Alors, on me trouve effectivement sur Scénario Buzz, sur les réseaux sociaux, beaucoup trop.
Mais c'est pas grave, c'est rigolo.
Et on retrouve mon roman La couleur de l'ombre chez Amazon.
Super. Et alors, Yves, une petite conclusion. On peut te laisser une heure si tu veux. On laisse tourner les micros, on s'en va, on va manger. Une petite conclusion et peut-être de nous dire ce que trouveront les futurs acheteurs dans ton livre, pour ceux qui ne le connaissent pas encore.
Bah, ils trouveront quelques recettes. Un paquet de règles. J'espère un joli voyage à travers le récit. De quoi je peux vous parler? Il y a beaucoup de sujets à aborder. La lecture de scénarios est un sujet capital. Le script doctoring, c'est un sujet capital. J'aimerais que le script doctoring soit valorisé en France. Valorisé, ça veut dire rémunéré, par exemple. Que les décideurs se contentent pas de faire lire à leurs copains parce que ça leur coûte rien, mais fassent appel à des script docteurs compétents. Plus généralement, je suggère à tous les auteurs de faire lire. Et puis, j'aimerais finir sur mon cinquième mot préféré dans la langue française. Je vous ai dit que les 4 premiers, c'était « il », était « une » et « fois ». Et le cinquième, c'est « et », la conjonction de coordination, « et », « et », comme dans « yin » et « yang », masculin et féminin, permanence et changement, unique et universel, hémisphère gauche et hémisphère droit. Et ce qui est fascinant, c'est que le corpus callosum dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh ben, il incarne le « et ».
Je suis ébloui.
Ouais, je ne sais plus quoi dire.
Bah, très bien, merci à tous.
Merci à vous.
Pour ce bon moment partagé. On se retrouve, quant à nous, le mois prochain pour un nouveau podcast. Et entre-temps, vous pouvez nous laisser une petite note et un commentaire sur iTunes. Ça nous aide beaucoup. Et nous soutenir sur Tipeee. Il y a des liens dans la description du podcast. Nous retrouver sur Twitter, nous envoyer un petit mail. Il y a des liens pour tout ça. Et puis on se dit à l'année prochaine aussi.
À l'année prochaine aussi.
On fait le bilan.
On fait le bilan, ouais.
Bah, merci à tous. Salut.
Salut, merci à tous.
Salut.
Merci.
Salut et merci. C'était génial. C'était passionnant.
Si vous aimez ce podcast, il y a plusieurs moyens de nous soutenir.
Nous laisser un tip sur le site tipeee.com, l'adresse est dans la description de ce podcast. Vous êtes libre de choisir le montant et sachez qu'avec un tip régulier de seulement 1 euro, vous nous aidez déjà énormément.
Vous pouvez aussi nous laisser une note et un commentaire sur iTunes, ça nous aide beaucoup à être visible.
Et bien sûr, partagez ce podcast, parlez-en autour de vous et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Memory, I know.